I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Aurélie est entrée dans la maternité par étapes. D'abord, elle ne voulait pas forcément d'enfant, enfin pas forcément tout de suite. Puis, deux événements vont accélérer les choses et la voilà enceinte. Si le début de sa grossesse se passe bien, cela va ensuite se corser avec des malaises très réguliers dus à son taux de sucre. Au bout de 9 mois, elle accouche par césarienne et lorsqu'elle retrouve son bébé, rien. Elle ne ressent aucune émotion. Là aussi, c'est par étapes qu'elle va se connecter avec son bébé pendant son postpartum, après un allaitement douloureux et quelques nuits courtes. Puis, à 2 mois et demi, Aurélie constate que son bébé a un regard différent des autres bébés qu'elle croise, alors elle consulte pour en savoir plus. Rapidement, le verdict tombe, son fils est albinos. Le temps de digérer la nouvelle, elle se renseigne sur ce handicap rare, elle se rassure et elle apprend aux côtés de son petit garçon à découvrir le monde d'une autre manière. Bonne écoute.
Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Alors merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Merci de m'avoir invitée.
Avec grand plaisir. On va revenir au tout début. Toi, quand tu étais plus jeune, quel regard tu portais sur la maternité? Est-ce que tu as toujours désiré devenir maman, ou c'est arrivé plus sur le tard, ou c'est arrivé par surprise?
Alors, pas du tout. Ça ne m'intéressait pas du tout.
Ouais.
J'aimais pas trop les enfants. Ils me faisaient même un petit peu peur, je pense.
Ah oui.
De ne pas pouvoir gérer les réactions, ce qu'ils demandaient, etc. Donc, c'était pas trop mon trip. Et même un peu plus tard, en fait, quand je suis arrivée autour de 30 ans, en fait, tout le monde commençait à me parler de ça.
Ah oui.
Ma mère la première, qui m'en parlait tout le temps. Donc, même à un moment, j'ai dit, arrête de m'en parler, sinon tu n'auras pas de petits-enfants. Donc, tu arrêtes tout de suite. Et puis après, bon, elle m'a écoutée jusqu'à ce que moi, j'en parle, elle en ait pu reparler. Mais autour de 30 ans, tout le monde m'en parlait, alors que moi, j'avais l'impression d'avoir trouvé un bon équilibre, où j'aimais bien mon boulot, j'aimais bien mon appart, tout roulait, quoi. Et au moment où j'étais enfin bien, on me disait, allez,
Parce que t'étais
la
en
suite.
Couple, du coup.
Ouais, j'étais en couple.
Depuis longtemps?
Ouais, depuis déjà un petit moment. Alors là, je ne saurais plus calculer, mais oui, ça faisait peut-être 7-8 ans, je sais même plus. Et du coup, moi, j'étais bien, quoi. Et j'avais l'impression qu'on me disait, bon, bah, faut passer à la marche suivante, quoi. Mmh. C'est la suite, là, la suite.
La grosse pression.
C'est ouais. Ça, j'étais pas du tout pressée. Et puis, en fait, y a eu, je pense, un concours de circonstances. Il y a eu. Alors, il y a mon chat qui a eu une tumeur à la patte. Et on a dû la faire amputer d'une patte. Et en fait, bah, c'était un peu mon bébé. Mon chat, je l'avais depuis que j'étais étudiante, super jeune et tout. Et je pense que ça m'a déjà fait un petit switch. Et puis, quelques mois plus tard, ou moins d'un an après, en fait, le père de mon fils, son père est décédé, assez jeune. Et je pense que du coup, il y a eu un espèce de switch qui s'est fait, où j'ai peut-être débloqué quelque chose en me disant, bon, bah, effectivement, peut-être que c'est le moment. Et puis, en début d'année, on en a parlé, quoi, un peu comme ça, est-ce que ce serait pas le moment? Et puis, j'ai dit, bon, bah, ok, j'arrête la pilule. Et par contre, il y a un collègue qui m'avait dit « Fais gaffe, quand on arrête la pilule, nous, elle a arrêté. » Genre un mois plus tard, bim, elle était enceinte. Donc moi, j'étais restée là-dessus en me disant « Bon, bah, je vais arrêter. » Puis un mois plus tard, je suis enceinte. Et en fait, ça a mis 3-4 mois. Et du coup, chaque mois, j'étais prête. Je faisais le test et je me disais « Ah, c'est bon, ça va être là. » Et après, j'étais déçue en voyant le test négatif. Genre bah, « Pourquoi ça marche pas ?» Et bon, après, la gynéco m'avait dit « Faut... » Surtout après genre 16 ans de pilule, faut que ça se remette en place. Enfin, voilà, le corps, faut qu'il fasse un peu de ménage. Et puis, bah, c'est ça, au bout de 4 mois, ça a fonctionné. Donc, bon, je sais que ça peut être beaucoup plus compliqué que 4 mois. Ouais, mais déjà, j'ai... pendant longtemps, j'ai pas du tout envie. Et après, d'un coup, je me disais, bon, bah, si c'est maintenant, faut que ce soit maintenant, quoi. Mais avant ça, ça m'intéressait pas du tout, ouais.
Et alors, comment t'as pris cette nouvelle quand t'as vu les bâtonnets
Bah, du coup, j'étais super contente parce que c'est ça, ça faisait 3 fois que c'était un micro-échec. Et à la 4e, j'étais, ah, bah, enfin, ça y est, c'est parti. Et du coup, bah, tout de suite, j'ai montré le test au papa, qui était super content aussi. Et même là, en fait, je suis sortie avec le test et je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fais maintenant, en fait ? Ouais. Je sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce que j'appelle la gynéco ? Qu'est-ce que je fais ? Et parce que j'y connaissais vraiment rien de rien, hein. Je m'étais pas du tout renseignée et tout. Même pour le test de grossesse, en fait, il y avait plein de trucs, il y a des trucs électroniques et tout. J'étais, ah, mais ils font des trucs électroniques, alors ça veut dire que ça se recycle pas, c'est mauvais pour la nature. Mais quand même, est-ce que c'est plus précis ? Enfin... Donc, n'importe quoi. Donc, j'ai appelé la gynéco et elle m'a dit... Et là, elle m'a mis un gros coup de pression, genre... Ah bah, ça y est, alors, faut tout de suite appeler la maternité pour réserver et tout. Je venais de faire le test, en fait, ça faisait 2 heures. Et déjà, on me remettait un coup de pression, genre... Il y a à peine le petit truc qui est en train de se former, qui est à la taille d'un petit pépin ou j'en sais rien. Et déjà, on me dit, ah, faut boucler la maternité, le chien, ouais, faire ça,
Paris,
ça, ça.
En plus, ouais. Ouais, ça va vite.
Donc, du coup, voilà, j'ai eu... 4 mois, en gros, un petit peu de flottement. Et après, je suis rentrée dans un truc un petit peu de stress, en fait, où chaque fois, il y avait les rendez-vous, les trucs préparés. Donc, voilà, le sentiment, c'était plutôt, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je suis déjà perdue. C'est que le début et je suis déjà partie.
Et alors, comment s'est passée ta grossesse ?
Le premier trimestre, nickel. J'ai pas eu de nausées, de trucs comme ça. J'ai tout de suite perdu beaucoup de poids. Et du coup, ça fait que j'ai pas énormément pris. Et en plus, comme j'avais pas un gros bébé ni beaucoup de liquide, en fait, ça s'est vu assez tard. Parce que même dans les transports et tout, les gens ne laissaient jamais la place parce que j'étais enceinte en hiver. Et avec le manteau et le tout petit bide, personne ne voyait que dalle. Donc le premier trimestre s'est très bien passé. Mais ensuite, je faisais pas mal de malaise. Et du coup, régulièrement dans les transports, je sentais le truc arriver. En plus, j'étais debout parce qu'évidemment, personne ne laissait la place. Et comme personne ne voyait rien, je n'osais pas trop demander. Et sauf vraiment à la fin où j'en pouvais plus. Donc là, vraiment, je demandais. Et par contre, à la toute fin, je faisais un malaise tous les jours.
Ah oui, carrément.
Et j'avais pas d'arrêt de travail, quoi. C'était, c'est pas un truc grave.
Donc, t'as diagnostiqué quelque chose ?
Non, alors en fait, je pense que c'était des crises d'hypoglycémie. Parce que, donc j'en parle dans ma bande dessinée, en fait, j'ai eu une espèce de lubie sur les Twix. Alors, je sais que c'est pas bon, pas sain, c'est... Voilà. Mais alors, en fait, j'ai une obsession. Alors, ça n'a pas commencé au début de la grossesse, c'était plutôt vers la fin de grossesse. Mais mon frère m'avait offert parce que j'avais dû dire que j'aimais les Twix, quoi. Un gros carton rempli de Twix, des trucs de grossiste.
D'accord.
Du coup, en fait, dans mon salon, il y avait la télé, juste à côté, j'avais mon carton de Twix. J'en ai fait tous les jours. Et même certains jours, j'en mangeais deux dans la journée. Mmh. Et je pense qu'en fait, ça devait me faire des pics de sucre ou je sais pas quoi. Et puis, régulièrement, c'est ça, je faisais un malaise dans les transports ou en marchant dehors ou dès que j'avais un peu chaud...
Mais... C'est toi qui arrêtais tous les wagons chaque jour.
Non, parce que justement, moi, je prévenais personne. Donc, dès que je sentais le malaise arriver, que je sois dans le bus ou dans le métro, en fait, je sortais, je m'asseyais et j'attendais que ça passe. Donc, je transpirais, je voyais plus rien et tout. Et une fois que je sentais que c'était passé et que je retrouvais un peu de force, je remontais dans le wagon, je repartais au boulot ou à mon rendez-vous à la maternité ou quoi. Parce que justement, je voulais pas... être la relou, et puis que tout le monde soit autour de moi, je voulais gérer mon truc toute seule, quoi. Mais du coup, c'était pas très pratique, parce que chaque fois que je devais aller quelque part, je me disais, mais ça veut dire que potentiellement, si je suis debout longtemps, s'il y a ci ou ça,
je peux tomber dans les tables, quoi.
Donc c'est ça me mettait un petit stress à chaque fois que je sortais de chez moi, en fait.
T'avais fait le test
Ouais, ah bah, du diabète. Laisse tomber. Le test du diabète, je me suis fait un malaise dans le labo, mais... en fait, parce qu'ils m'ont fait boire, donc le truc est vraiment dégoûtant, là, le sirop. Et je suis retournée en salle d'attente. Et en fait, là, ça a été, je crois, le pire malaise que j'ai fait. À un moment, j'ai fait signe en disant, genre, je me sens pas bien. Et je me suis sentie partir. Et après, je me souviens plus de ce qui s'est passé. Ils m'ont mis dans une petite salle, allongée. Et ils m'ont donné de l'eau et tout. Puis après, elle revenait voir de temps en temps, ça va. Donc après, je me suis remise. Mais autant dans le métro, je le sentais arriver, j'avais le temps de sortir de la rame, de gérer quand ça passait et tout. Que là, je pense que la dose de sucre, oui, c'était au-delà des Twix habituels.
Là, t'as la boîte complète fois 10.
C'est ça, là, c'était le carton en one shot. et du coup, mon corps, il n'a pas du tout aimé. Mais il n'y a pas de diabète ou... Enfin, voilà, il n'y a pas eu de soucis là-dessus. Juste, ça me faisait des malaises. Et puis, il y avait ce truc de liquide où, en fait, au début, donc, j'avais un petit bidon. Et vers la fin de grossesse, à un moment, ils se sont demandé s'il n'y avait pas des fuites de liquide amniotique. Parce que bah, chaque fois que je venais, il n'y avait pas beaucoup de liquide, alors qu'il est censé en faire de plus en plus. Et en plus, il était en siège, donc ils voulaient aussi qu'il y ait plus de liquide pour qu'il puisse faire une manip pour le retourner, etc. Et en fait, bah, il n'y en avait pas beaucoup, donc j'étais sous surveillance, etc. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de fuite, juste peu de liquide. Mais à la fin, j'y allais tous les 3 jours. Et tous les 3 jours, ils remesuraient les poches de liquide pour vérifier qu'en tout cas, il n'y en avait pas moins. Il n'y en avait pas plus, mais que ça
ne baisse
pas.
Fuite, ouais. Et à aucun moment, on t'a proposé d'être alitée
Non, à aucun moment. Et ben, à la fin, j'ai eu le congé pathologique.
Ouais.
Mais non, à aucun moment, quelqu'un a estimé. Bon, après, je ne me rends pas compte. J'imagine qu'il y a des grossesses beaucoup plus difficiles que ça. Et puis même moi, je pense que je me disais, c'est bon, je gère, ou c'est pas grave. Peut-être que je donnais pas l'impression que ça m'embêtait. Alors bon, c'était quand même pas très pratique, mais bon. Après voilà, j'ai pas eu les nausées. Ah si, à la fin, j'avais quand même beaucoup mal au dos, parce qu'au boulot, ils se moquaient de moi. En fait, j'avais récupéré des trucs en plastique gonflé qu'on met dans les cartons de livraison.
Ouais.
Et je mettais ça sur mon fauteuil derrière mon dos, donc ça faisait un peu... le tiers-monde des trucs de maux de dos, mais c'est, ça me faisait du bien, donc je gardais ce truc. Et oui, j'avais quand même pas mal au dos, alors que j'avais pas un gros bébé, mais si, ça...
Et alors, du coup, ils t'ont prévu une césarienne ou...
Donc, ça s'est en fait, ils m'ont dit... donc, comme c'était pas un gros bébé, ils m'ont dit que ça pouvait passer de façon classique. Donc j'ai fait, je sais pas si c'est obligatoire pour tout le monde, j'ai fait l'échographie du bassin là pour voir si ça passait en taille.
Ah, d'accord.
Je sais pas si toutes les femmes le font ou pas, ils m'ont fait faire ça. Et ils ont dit que du coup ça pouvait passer comme ça si le travail se déclenchait.
Ils s'étaient retournés du coup?
Non, ils s'étaient pas retournés. Ils m'ont dit en gros il y a une chance sur deux. Une chance sur deux que le travail se déclenche et que vous accouchiez de façon naturelle. Ou alors il y aura une césarienne, donc je m'étais préparée. Et je pense qu'en fait, je me disais, je préférerais que ce soit une césarienne.
Oui.
Parce qu'en fait, j'avais super peur d'accoucher. Et j'avais super peur de me dire, tout va exploser en bas, là. je vais perdre, c'est ça, je vais perdre ça. Ça va être compliqué après. Donc, ça m'effrayait. Et du coup, la césarienne m'effrayait aussi. Mais je me disais... Finalement, ce serait peut-être pas mal si ça se passait comme ça. Et en fait, comme il n'y avait plus beaucoup de liquide, ils m'ont déclenché 15 jours avant. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un décollement de membrane. J'allais pour mon suivi tous les 3 jours comme d'hab. Et puis là, elle m'a dit, il est assez gros, vous n'avez toujours pas de liquide, donc ça ne va pas changer en 2 semaines. Si vous voulez, là, je vous fais la manipulation et ça peut déclencher dans la journée, ce soir.
Oui.
Alors que j'y allais pour un suivi classique, quoi. Et je me disais, bon, il me reste encore 2 semaines. et en fait, quand elle me l'a dit, j'en avais tellement marre d'être enceinte et de faire les rendez-vous et tout. Je lui ai dit, bon, allez-y, on y va. Et du coup, en sortant, je me suis dit, bon, ça se trouve, demain, il est là. Je savais déjà que c'était un garçon. Et du coup, je suis rentrée, puis je guettais, du coup, la moindre douleur, le moindre truc, parce que j'avais pas eu beaucoup de contractions. Enfin, j'avais eu des petites douleurs, mais voilà. Et du coup, le soir, quand les vraies contractions ont commencé, alors là, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette douleur, quoi, c'est horrible, je vais jamais survivre à ça. Et plus ça se rapprochait, plus je croyais que j'allais crever. C'est pas possible d'avoir aussi mal. J'ai l'impression qu'on est en train de me poignarder la colonne, là. Je suis en train de me faire écraser par un camion, je sais pas ce qui se passe. Et en plus, comme elle m'avait dit, attendez un peu avant de venir, quand vous avez les contractions, restez chez vous. Je me disais, mais je vais jamais tenir, c'est de la torture. Mais du coup, ça s'est déclenché vers 23h. J'ai attendu un peu, donc le papa est allé se coucher, parce que je lui disais, bon, on va prendre du repos au cas où, pour le reste de la nuit et tout. Et moi, je faisais mes trucs, respiration, ça marchait pas, il y a rien qui marchait, le ballon. Après, on a fait le bain parce que je suis allée le réveiller en disant ah, je vais mourir, j'ai trop mal. Et après, il m'a fait couler un bain. Le bain, j'avais hyper mal, ça changeait rien. Je pense que le stress commençait à monter aussi, donc j'arrivais pas à me détendre, à réfléchir simplement, j'arrivais pas à réfléchir tellement j'avais mal. Et à un moment, il m'a dit bon, bah on y va. Je pense qu'il voyait que j'étais. Oui. En panique, en train de souffrir comme pas possible. Parce qu'en plus, je suis pas une douillette. Mmh. Et même quand j'ai eu des grosses douleurs dentaires ou des trucs comme ça, même une fois, ma dentiste, elle m'avait dit « Mais ça fait 2 jours que vous avez ça, comment vous supportez ?» J'étais « Ah bah oui, j'ai un peu mal. »
Ah ouais.
Et du coup, là, je pense qu'il a dû se dire « Si elle est dans cet état, c'est que ça doit faire vraiment mal, on va y aller, là. » Donc, il est allé chercher la voiture, on est parti à la maternité. Puis, arrivé là-bas, en fait, c'était quasiment pas ouvert. Donc ils m'ont pas laissé repartir, mais il a fallu encore attendre. Et du coup, en arrivant, donc la première qu'on a vue, elle m'a ausculté, elle a dit bon bah c'est pas assez ouvert, donc de toute façon faut attendre. Et moi j'avais super mal et je me dis mais comment je vais faire pour passer autant d'heures encore à souffrir comme ça.
T'avais prévu de prendre la péridurale?
Oui. Ouais. Oui, je m'étais dit si ça existe, je vais pas me poser de questions. Ouais. Après, moi, je n'étais pas du tout renseignée sur tous les trucs de grossesse, d'accouchement et tout. Donc, depuis, j'ai appris qu'il y a beaucoup d'autres options, que le corps réagit différemment, qu'il y a d'autres moyens de se préparer à ça, tout ça. Mais parce qu'il y a une super BD qui s'appelle la naissance en BD, Découvrez vos super pouvoirs, où elle explique, voilà, de Lucille Gomez. Où elle explique comment le corps prépare à ça, les hormones qu'il libère et tout. Et en fait, tout ce qui est médicalisé, ça va à l'encontre de ça et ça tue un peu tout le process qui se met en place, quoi. Donc la douleur est plus forte. Et donc là, moi, j'étais pas du tout au courant de tous ces trucs-là. Mmh. Donc je suis arrivée stressée et tout. Et là, ça a été un espèce de... J'étais dans du coton de douleur où je voyais pas le temps passer. J'ai eu la rupture de la poche des os... à la maternité où il m'avait fait me changer et tout, puis à un bon moment je sens que ça coule partout et j'étais là mais qu'est-ce qui se passe, je comprends rien, j'ai mal, faites le sortir là, j'en ai marre, j'en avais déjà marre. Et en plus quand on est arrivé à la maternité, donc ils m'ont donné le truc pour me changer dans une salle, ils ont demandé à mon conjoint d'attendre dans le couloir et après ils revenaient pas. Et il m'avait emmenée dans une salle, je sais pas où. Je savais pas s'il était devant ou au bout du couloir ou j'en sais rien. Et puis en plus, j'étais un peu dans les vapes. Et j'arrêtais pas de demander, mais où est-ce qu'il est? Parce que j'étais là, ça se trouve, je vais accoucher toute seule, j'ai oublié de l'appeler. Enfin... Et au bout d'un moment, il est quand même arrivé. Et j'étais là, mais où est-ce que c'était? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après, c'était encore pas assez ouvert, mais ils m'ont quand même fait de la péridurale. Et là après j'étais dans le coltard complet. Ce qu'il m'avait dit, alors par contre c'était vraiment pas cool parce que j'étais fatiguée, j'étais stressée, j'avais super mal et tout, et l'anesthésiste limite il m'engueulait parce que je tremblais. Entre les contractions, en fait, en plus j'avais froid parce qu'il m'avait relevé le truc et tout, je commençais déjà à fatiguer et tout, et puis il me disait non mais arrêtez de bouger là, vous tremblez. Et puis il était c'est ça, il m'engueulait et j'ai... Dans ma tête, je lui disais, mais tu vivras jamais ça, mec, donc sois gentil avec nous, là, parce que tu sais pas ce que c'est. Mais une fois qu'il a eu piqué, qu'il m'a dit, si vous avez mal, vous appuyez, j'appuyais genre, allez. Et après, j'ai dormi pas mal. Et c'est vrai que j'ai accouché donc à l'hôpital public dans le 13e. Et la salle, il y avait, pour mon conjoint qui était là, il y avait juste un petit tabouret qui était un tabouret à roulettes. Il n'y a même pas une chaise. Et lui était contre le mur, et dès qu'il s'endormait un petit peu, le tabouret roulait, donc ça le réveillait. Alors que moi, j'étais sur le lit, puis une fois que j'avais vu la péridurale, je comatais. que lui, ça a été long, quoi. Ça a été long, l'attente. Et en fait, chaque fois que le médecin venait pour voir si le col était plus ouvert, ou les infirmières et tout, en fait, apparemment, il sentait la main. Le bébé attrapait le doigt. Ils ont dit, non seulement il est en siège, mais en plus, il a la main sous les fesses, et ça bloque le travail. Donc, après plusieurs heures où, en fait, ils ont dit, là, il va commencer à fatiguer. Et de toute façon, comme ça bloque le travail, il va pas sortir comme ça avec sa petite main sous les fesses. Donc, césarienne. Et là, d'un coup, tout le monde qui arrive dans la pièce, ils rabattent les trucs du lit. Et là, je commence à paniquer. Je m'étais dit, c'est l'option pourtant qui me rassurait le plus, même si j'étais effrayée par les deux. Et quand je me suis dit, c'est parti, là, je me suis dit... J'espère qu'il y aura assez d'anesthésiants. Ça se trouve, je vais les sentir découper la peau. Enfin, je paniquais, je me suis mise à pleurer. Et j'étais effrayée, quoi. Effrayée. Et du coup, donc, mon conjoint, ils l'ont préparé pour lui mettre les blouses, enfin, tous les trucs, là, pour me rejoindre. Et en fait, après, je pense qu'ils m'ont remis un coup d'anesthésiant parce que j'ai rien capté. Alors je suis assez sensible aux médicaments, donc je pense que ils ont dû mettre une dose normale, mais moi ça m'a complètement quasiment endormie, quoi. Et du coup j'ai vite fait, je comprenais pas ce qu'on me disait, je sentais qu'il y avait des gens et tout, mais limite je voyais pas les visages, enfin, j'étais vraiment complètement dans le brouillard, et j'ai juste senti mon ventre redevenir petit. En fait, quand ils ont sorti le bébé, j'ai senti. Bon, avant, j'ai rien senti, tout ce qui se passait. Et par contre, en fait, j'ai compris qu'on me montrait mon bébé sur le côté, mais je me souviens de rien. Je sais pas ce qu'on m'a dit, je me souviens pas de la tête de mon bébé. Je voyais juste une forme, et en fait, je comprenais pas ce qui se passait. Et après, ils sont repartis, et après, j'ai dû m'endormir, mais j'ai rien compris. Ouais. Donc, du coup, en fait, j'ai l'impression que j'ai pas vécu mon accouchement, en fait, même avec une césarienne. Parce que j'étais pas là, en fait, je comprenais rien à ce qui se passait, je voyais rien, j'étais droguée. Et en plus, après, donc j'ai dû m'endormir, j'étais en salle de réveil, et là, c'était horrible parce que j'avais super mal au ventre, j'avais donc de grosses douleurs. En plus, j'étais encore engluée avec l'anesthésiant et tout, et ça me semblait interminable. J'étais dans un lit, je pouvais pas bouger, il y a des gens qui passaient, je comprenais pas, il y a personne qui me parlait, il y a personne qui me disait... où est le bébé, depuis combien de temps je suis là, enfin, j'avais l'impression qu'on m'avait mis sur le côté dans un coin en attendant de gérer d'autres trucs plus importants. Donc dans la réalité c'était sûrement pas comme ça, mais moi dans mon lit à moitié dans les vapes avec la douleur et tout, c'est comme ça que je le ressentais, et je me disais mais qu'est-ce que je fais là, c'est quoi cette histoire, dans quoi je me suis embarquée, j'avais même pas encore vraiment vu mon bébé et tout, que déjà j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je suis allée faire là-dedans, quoi. Ça me plaît déjà pas, j'aime pas être là, j'aime pas tout ce qui se passe. Et au bout d'un moment qui m'a semblé une éternité, je ressortais un peu des vapes et puis ils m'ont remonté dans la chambre. Et puis là, en fait, quand la porte s'est ouverte et que j'ai vu mon bébé, ça m'a rien fait du tout. Ouais. Ça m'a rien fait du tout. Et ce que j'ai mis dans mon livre, parce que je me suis dit, ça, faut quand même que je l'écrive noir sur blanc pour d'autres mamans. Je me suis dit, là en fait, si mon bébé il partait, si on le faisait adopter par quelqu'un d'autre, ma vie reprendrait telle qu'elle. Et je, en tout cas sur le moment, peut-être avec les drogues aussi et tout, je me suis dit, je serais même pas triste ou quoi, je ressentirais rien parce que, comme le lien s'est pas fait, vu que je l'ai pas vu, je l'ai pas touché, c'est comme si c'était rien passé à part que mon ventre était revenu petit et que j'avais super mal. Ouais. Voilà, il existait pas vraiment, quoi. C'était encore abstrait. Et même en le voyant dans les bras de son père, ça me faisait rien du tout, quoi. Je voyais ce bébé, mais c'était pas mon bébé. Et du coup, la sage-femme qui était là, ou l'infirmière, je sais pas comment on dit, l'aide-soignante, bref, elle l'a pris, elle me l'a mis dans les bras, et il se passait toujours rien. Et en fait, elle m'a enlevé la blouse, et c'est elle qui a pris la tête du bébé, elle a pris mon sein, elle a mis le bébé au sein. Et même, j'ai trouvé ça un peu violent quand elle l'a fait, parce que j'étais pas prête. Toujours pareil, je comprenais pas ce qui se passait, en fait, j'étais spectatrice de tout ce qui se passait. Et là, il a commencé à téter, et ça m'a fait super bizarre, je me suis dit, c'est quoi ce truc? et, et par contre, là, je pense que mon cerveau a fait tilt en disant « Ah oui, ça, c'est, ça sort de toi, c'est ton bébé, c'est bon, maintenant, il est là pour toujours et tout. » et où j'ai commencé à juste intellectualiser le truc et à me dire « Ah, c'est bon, c'est parti, c'est ça. » Mais ça s'est pas fait dans la seconde, quoi.
Ouais. Et alors, les jours suivants, toi, t'avais décidé d'allaiter ou pas ?
Alors, moi, j'avais décidé d'allaiter parce que j'entendais partout que c'était mieux pour le bébé, que c'était bon pour les anticorps, tout ça. Donc, je m'étais dit, bah oui, allons-y. Puis en plus, j'ai comme une débile, je suis pas allée au cours d'allaitement. En fait, je me suis dit, je suis pas débile. Je m'en sors très bien au travail et tout ça ça a l'air facile, je vais gérer en fait, pas besoin de faire les cours et tout, je suis pas stupide, je vais gérer. Et en fait non, c'est hyper dur, c'est pas du tout instinctif, ça se fait pas tout seul quoi. Et du coup je m'étais dit bah donc oui je vais allaiter parce que trop facile. Et en fait non, très très difficile. C'est pas si simple, ça marche pas, il prend pas bien, il prend pas assez, ça fait mal, c'est pas une bonne position. En plus, à la maternité, comme j'avais une césarienne, je suis restée 5 jours. Et chaque personne, toutes les 3 heures qui changeaient, me donnait des conseils différents.
Ah oui.
Et à chaque fois, elle me disait « Ah mais non, faut pas faire comme ça !» Et la suivante « Ah mais non, faut pas faire comme ça !» Et déjà que j'étais perdue, mais alors là, c'était, il n'y avait plus aucune référence, quoi. J'étais là, mais... À qui je demande le vrai truc ? Où est le maître d'école, là, celui qui sait vraiment ? Qui sait ici ? Et tous les conseils étaient contradictoires et je m'en sortais pas, j'avais mal. Et puis, il pleurait tout le temps. Et les premières nuits, ça a été super dur. Enfin, tout le séjour à la maternité, ça a été super dur. Et j'avais vraiment hâte de partir et de rentrer chez moi, où je me disais qu'ensuite ce serait réglé. Je ne sais pas. Je pensais pas que ce serait si difficile, mais à la maternité, en plus, en étant pas dans son cocon, avec ses affaires, avec
tous
les... C'est ça, le passage, toutes les 3 heures, parce qu'en plus, avec la césarienne, il y a les médicaments, où toutes les 3 heures, on nous donne des médicaments pour la douleur. Du coup, à peine je m'endormais, soit lui, il se réveillait, soit il y avait une nana qui venait pour les médicaments, ou pour le bain, ou pour les couches, ou... C'était le défilé, quoi. Et à un moment, j'avais juste envie de mettre la chaise devant la poignée, de bloquer, de dire « Foutez-moi la pelle, je bloque l'accès !» Et ouais, c'était 5 jours horribles, horribles.
Et alors, le retour à la maison, comment ça s'est passé ?
Bah du coup, j'avais super hâte de partir. Et le matin où je savais que j'allais partir, j'étais super excitée. Et au moment où j'ai quitté la chambre, alors... Donc pendant 5 jours, j'étais dans une petite chambre. En plus, la salle de bain était à l'extérieur de la chambre. Donc même si j'ai pas pu prendre de douche au début, mais du coup, je sortais quasiment pas de ma chambre. Et j'avais pas du tout de... Parce que je racontais aussi que je suis un peu myope. Enfin, je mets des lunettes pour aller au cinéma ou regarder la télé et tout. Et là, j'avais pas mes lunettes à la maternité. Et en fait, d'avoir passé 5 jours avec juste 2 mètres de mur en face, quand je suis sortie de la maternité, mes yeux, ils voyaient plus rien en fait. Dès que je voyais au-delà de 2 mètres, tout devenait flou. Et en quittant la chambre avec le cosy, la valise et tout, dans le couloir, je me suis mise à pleurer. En fait, c'est sorti tout seul. Et même le papa, il me disait, qu'est-ce qui se passe ? Je croyais que t'en avais marre, que tu voulais rentrer et tout. Je disais, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe, en fait. Là, ça coule tout seul. Je maîtrise pas.
Une bonne chute d'hormones.
Mais j'étais super contente de rentrer. Et quand je suis arrivée chez moi, pareil, on a posé les affaires et je me suis dit, c'est fini. L'enfer, c'est fini, quoi. Ça y est, maintenant, ça va rouler. Grosse erreur. Mais ouais, j'étais vraiment contente de partir.
Et alors, ça n'a pas roulé quand t'es rentrée ?
Non, parce que pareil, en fait, manque de sommeil, pleurs. En plus, l'allaitement, du coup, j'avais des... Comme je pense que je m'y prenais mal, ça crée des fissures. Donc je mettais de la crème et ça me faisait super mal et du coup en fait j'avais toujours pas fait le lien avec mon fils parce que dès qu'il pleurait, enfin dès que c'était l'heure de manger, je me disais je vais morfler quoi. Chaque fois que je l'entendais pleurer, que c'était pas la couche et que c'était l'heure de l'allaitement, j'y allais reculons en me disant il va se mettre au sein et là je vais douiller et du coup à chaque fois j'y allais reculons au lieu de me dire je vais lui faire du bien, on va passer un moment ensemble et tout. Je me disais, oh non, déjà, je vais encore avoir mal. Ouais. Et puis je pleurais pas mal et j'étais... En fait, c'est ça, je me disais, mais que c'est ça qu'on m'a vendu, quoi. Qu'est-ce qui se passe là? J'avais une vie hyper cool, j'étais bien et tout. Et là, ça fait genre une semaine, c'est l'enfer. J'ai mal tout le temps, je dors pas. Ce bébé, il chiale tout le temps. Je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Il y a aucun plaisir là-dedans. Et je me disais, mais j'aurais jamais dû faire ça. C'était une énorme bêtise. Et en fait, la première semaine, il y a ma mère qui est venue chez nous. Parce qu'en fait, il y a une amie du père de mon fils qui avait fait ça. Sa maman était venue la première semaine et nous avait raconté que ça les avait vachement aidés parce que la maman avait fait de la bouffe, elle avait dérangé des trucs et puis donné des conseils aussi. Mmh. Et du coup, je m'étais dit, ah bah c'est vrai que ça peut être bien. Donc ma mère avait dit oui tout de suite. Donc quand on est rentré de la maternité, elle est arrivée, je sais plus si c'était dans l'après-midi ou le lendemain, enfin assez vite. Et du coup, en fait, elle voyait ce qui se passait. Elle voyait que ça se mettait pas du tout bien en place et que c'était pas sain du tout. Et que je pleurais tout le temps parce que j'avais mal et que du coup, je voyais que ça, les douleurs, les trucs comme ça. Et que tout était dans le négatif. Et c'est elle qui m'a dit, mais donne-lui le biberon, quoi. Enfin, arrête de te faire du mal, là. Passe au biberon, c'est pas grave, il va survivre. Moi j'avais pas assez de lait, donc toi t'es passé au biberon rapidement. Regarde-toi, t'as survécu, t'es en bonne santé, ton cerveau il va bien, donc voilà, passe au lait quoi. Et du coup je me disais, ah, mais donc déjà échec. Ensuite, bah, tout le monde dit faut le faire, c'est bon pour lui, donc si je le fais pas, mauvaise mère et tout. Mais c'est vrai que j'avais vraiment trop mal, donc j'ai encore tenu quelques jours. Et puis, je l'ai allaitée 11 jours et le 11e, en fait, le soir, j'en pouvais vraiment plus. J'avais trop, trop mal. J'avais un des deux seins qui était fendillé, mais ça, c'était abominable. Parce que du coup, même le t-shirt dessus, du coup, je me baladais dans l'appart avec les seins à l'air. Enfin, c'était n'importe quoi. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe là? Je comprends plus où est ma vie, où est ma dignité. Et du coup, il était super tard, c'était fin de soirée, et j'ai appelé SOS médecin en disant, bon ben là, je tiens plus quoi, tant pis. Et d'abord, j'ai regardé sur des forums comment faire pour arrêter d'allaiter. Et en fait, toutes les réponses à chaque fois, c'était des... On poussait les femmes à persévérer en fait. C'est chaque fois que sur les forums, c'était comment je fais pour arrêter, couper mon lait et tout. Chaque fois, il y avait 15 réponses. Non, mais arrête pas, tiens bon, c'est pas bon pour ton bébé, faut pas gâcher tout ce lait, la nature est comme ça. Enfin, et à un moment, j'ai quand même réussi à choper l'info qu'il y avait un médicament qui coupait le lait. Et du coup, j'ai viré internet, j'ai fait, ok, il y a un truc qui existe, j'appelle SOS médecin, là, direct. Et c'est un vieux médecin qui est arrivé, en fait... Il m'a dit, ah oui, bah effectivement, il y a quelque chose, mais là, j'en donne pas souvent, donc il faut que je redescende dans ma voiture pour voir le nom du médicament et tout. Donc, mais juste le fait qu'il me dise, oui, il y a ça, je vais vous le prescrire. Pff,
gros soulagement.
Gros, énorme soulagement. Donc, il est redescendu, il m'a remonté deux cachets d'avance, et puis l'ordonnance pour aller en chercher d'autres. J'avais déjà les biberons pour le futur, mais on n'avait pas de lait, donc... mon conjoint était allé à la pharmacie de garde pour prendre les médicaments et du lait en poudre. Du coup, on a fait le biberon. Alors, on était tous les trois dans la cuisine, genre, alors, faut mettre tant de poudre, machin. Mmh. Enfin, c'était la mission survie du premier biberon. Et en fait, du coup, c'est le papa qui l'a donné. Et ça, enfin, vraiment, je me suis dit, là, je mets l'enfer derrière moi, quoi. On passe un truc où... je vais arrêter d'avoir mal, ça va mieux se passer. Enfin, ça m'a pas mal détendue. Et le lendemain, quand c'est moi qui ai donné le premier biberon... Petite vague d'émotion, désolée.
Ouais,
je t'en prie. Et en fait, là, je me suis dit... je pense que c'est là que j'ai vraiment vu mon bébé en me disant... maintenant, ça va aller, quoi. Mmh. Et du coup, comme j'avais enlevé cette barrière de la douleur... Enfin, j'avais encore mal parce que... Avec la césarienne, chaque fois que j'allaitais, en fait, il y avait les contractions, les tranchées qui resserrent l'utérus. Ouais. Et où du coup, c'est pile à l'endroit où il y avait la cicatrice, enfin les points. Et du coup, donc, j'avais mal partout. En fait, j'avais mal au sein, j'avais mal au ventre, j'étais fatiguée et tout. Ouais. Mais là, le premier biberon, ça m'a enlevé ce poids en me disant, maintenant, ça va aller que vers du positif parce que les fissures, ça va guérir, la cicatrice, ça va guérir. Et le biberon, ça a été un switch total, quoi. Mmh. C'est ça qui a vraiment créé le lien et où je me suis dit, bon, en fait, ça va aller maintenant.
Et alors, comment ça s'est passé depuis ce jour-là?
Et alors après, bah, du coup, c'était... Donc, ça restait compliqué parce qu'effectivement, c'est un autre rythme. Mmh. Il y avait les réveils la nuit, tout ça, mais la douleur a commencé à s'estomper. Mais il y avait quand même le gros changement de vie, quoi, où je continuais à me dire... Alors, il dormait pas mal dans la journée, donc j'avais quand même des moments où je pouvais dire faire autre chose, mais non, parce que finalement, je faisais des machines, des trucs comme ça... On m'avait dit fais la sieste quand il dort, je l'ai jamais fait, en fait j'aurais dû parce qu'effectivement c'est le conseil à retenir, tant pis pour le linge. Et du coup bah là je commençais je pense vraiment plus à vraiment regarder mon bébé, à commencer à devenir sa première fan, à voir un peu tous les petits gestes qu'il faisait, tous les trucs. Mais il y avait quand même le... Je me disais mais... On m'a menti en fait, je me disais... Pourquoi personne, ou j'ai pas entendu, pourquoi personne m'a dit que ça allait être ça, en fait personne ne m'a dit, le début, ça va se passer comme ça. Mmh. Parce que je me serais préparée différemment, ou je me serais juste préparée, même à 2%, ça aurait été déjà quelque chose. Parce que là, à chaque fois, je trouvais mon bébé très beau et très mignon, et chaque fois, je pouvais pas m'empêcher de me dire... Ma vie d'avant, c'est fini, quoi. C'est fini les temps calmes, c'est fini les moments où je peux faire ce que je veux, c'est fini de dormir, c'est fini d'avoir un appart à peu près rangé, c'est fini d'avoir des fringues correctes sans vomi partout, même juste de pouvoir prendre ma douche quand je veux, parce que franchement, au début, j'étais en pyjama tout le temps ou en fringues super confort pour pas serrer le ventre. Et même juste prendre la douche, la journée a passé hyper vite. Il y avait toujours un truc à faire, à ranger, à laver le bébé, à s'occuper, changer les couches. Enfin, c'est non-stop. Et quand on se dit quoi, comment ça, t'as pas 3 minutes pour prendre ta douche, ben, en fait, non, quoi. Ça passe trop vite. Et du coup, chaque fois, j'avais quand même le regret de ma vie d'avant en me disant est-ce que ça vaut le coup d'avoir sacrifié tout ça pour ce petit bébé-là. Mmh. Je me suis dit ça quand même un petit moment. Mmh. Et après, donc on a eu de la chance parce qu'il a fait ses nuits au bout d'un mois. Et là, pareil, nouveau switch où je me suis dit, ah là, ça valait mieux à chaque fois.
Ouais, c'est pas lié.
C'est ça, à chaque fois, c'est, ah d'accord, donc si ça se règle, bon déjà, je vais pouvoir aussi...
au bout d'un mois. Voilà,
retrouver un peu d'heures de sommeil. Et effectivement, c'était super bien parce que j'ai plein de copines qui me disaient « Mais te rends pas compte, la chance que t'as et
tout !» Je confirme.
Et donc, ouais, il devait faire genre 23h30, 6h du matin ou quelque chose comme ça. Mais ça a tout changé. Et du coup, ça allait encore mieux. Et là, par contre, en fait, donc, j'étais en congé maternité. Donc, le papa a repris le travail après le micro-congé paternité. Ouais. Et en fait, j'étais chez moi et je m'emmerdais. J'avais hâte de reprendre le travail, en fait. Parce que j'étais toute seule avec mon bébé, à faire que des trucs de maison qui me faisaient chier, hein, faut être honnête. Oui, j'aimais mon bébé, je le trouvais mignon et tout, mais niveau stimulation intellectuelle, c'était un peu la mort, quoi, le néant. Quand lui rentrait le soir du travail, il me disait alors comment s'est passée ta journée, j'étais comme hier, j'ai changé des couches, j'ai lancé des machines, genre rien d'intéressant, il s'est rien passé de différent d'hier, et j'avais l'impression d'être dans une spirale. C'était un jour sans fin, un jour sans fin en pire, parce qu'en plus il n'y a même pas de truc rigolo qui se passe ou quoi, c'est extrêmement répétitif au début. Après il y a des petits trucs sympas, genre il y a les premiers sourires, les petites étapes. Mais le global, ça reste quand même pas passionnant. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas la partie que j'ai préférée. Donc, j'avais vraiment hâte de retrouver au travail. Et puis, en plus, les rares personnes, soit qui venaient, soit que je croisais, tout le monde parlait que du bébé, en fait. Alors que moi, j'étais là, oh, faut des adultes, on va pouvoir... Et non, ils m'ont reparlé du bébé. Je disais, mais je veux parler d'autre chose. Mon cerveau, il est en train de se recroqueviller comme un vieux chewing-gum, là. Stimulez-moi. Et en fait, c'est en congé maternité que même j'ai eu l'idée de créer une petite maison d'édition jeunesse où c'est là que j'ai commencé à faire mes premières presses, mes premiers trucs sur mon ordi, en me disant alors, qu'est-ce que je pourrais faire, quel produit, enfin préparer tous mes trucs, parce que j'étais chez moi, je tournais en rond et j'étais en train de dépérir. Et j'avais besoin de stimulation et je reprenais toujours pas le travail et je me suis créé du travail en fait. Ouais. Je me suis dit bon bah qu'est-ce que je vais faire là, il me faut une occupation et il y a cette idée qui est arrivée et je me suis dit bon, je me suis lancée à fond là-dedans en fait. Donc du coup je donnais les biberons, mon bébé était dans sa balancelle et moi j'avais mon ordi et j'étais en train de faire mes stratégies, mes business plans, mes machins. On pige sur mon canapé. Avec l'appart plein de langes et de trucs qui traînaient partout. Mais parce que j'avais besoin de ça, mentalement, j'avais besoin de ça, quoi.
Et t'as repris le travail au bout de combien de temps, du coup ?
Je crois que ça devait être au bout de 3 mois. Je sais plus combien est le congé légal après la naissance, parce que mon entreprise y rajoutait du temps. Donc ça, c'est super. Et donc j'ai eu droit à un peu plus de rab par rapport à d'autres mamans. Et j'ai repris le travail. En fait, comme on avait une place en crèche pour la rentrée... ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai collé des congés à la suite de mon congé maternité. Et ensuite, quand j'ai repris, le papa a pris ses congés d'été. Donc lui, il a eu du temps où du coup, il a vécu ce que moi, je vivais. Et c'était pas mal parce que du coup, là, c'est moi qui rentrais, qui disais ah, « qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Comment c'était ?» Et là, il disait « je comprends mieux pourquoi t'avais rien à me raconter et tout. » Parce qu'effectivement, bah, y a rien à raconter, quoi. J'ai changé les couches, j'ai donné biberon, on est sorti acheter du pain, les trucs boring quoi. Et alors que moi j'étais trop contente de retourner, enfin j'étais à la fois trop contente de retourner travailler et en même temps il me manquait déjà en fait. Alors que j'étais surexcitée à l'idée de juste sortir de ma maison où j'ai l'impression d'être en prison. Mmh. Et le premier jour où je suis retournée au travail, bah, évidemment tout le monde m'a posé plein de questions et tout. Et par contre, le soir, j'avais hâte de partir. Et même dans la journée, je regardais des photos. Et j'étais là, il me manque, son odeur, elle me manque. Mmh. Et j'ai pensé à lui toute la journée, alors que ça faisait des semaines que je rêvais de retourner bosser. Et...
L'ambivalence des sentiments de la maternité.
C'est ça.
Et alors, comment ça s'est passé après pour ton petit chou?
Alors, j'ai oublié de préciser quelque chose. En fait, donc, quand il a eu 2 mois et demi, j'étais encore en congé maternité. Enfin, en tout cas, j'étais sur mes congés, je crois, j'avais pas encore repris. Et en fait, on a eu un diagnostic de handicap. Ah. Parce qu'en fait, donc, il est né extrêmement blond, les cheveux très très blonds, comme un Suédois, quoi. Les cils très blancs, sourcils blancs et tout. Et c'est vrai qu'à la maternité, chaque fois qu'il y avait une nouvelle. Aide qui rentrait, elle disait « Oh là là, qu'est-ce qu'il est blond ce bébé !» Enfin, c'était, j'ai entendu ça toute la journée de toutes les aides-soignantes. Et en fait, la pédiatre qui est passée, elle l'a vu et elle m'a dit « C'est vrai qu'il est très blond dans votre famille. » Alors, mon père, en fait, il a eu les cheveux quasiment blancs jusqu'à 10 ans. Et le père de mon fils, il était très blond petit aussi. Donc, c'est ce que j'ai dit. Et puis, je me souviens d'avoir fait une blague. On était près de la table allongée. Et puis, en rigolant, je faisais quand même pas albinos sur le ton de la blague, quoi. Mmh. Et en fait, elle a pas du tout rigolé. Et elle a dit, bah, si vous dites qu'il y a des blonds dans votre famille, non, il n'y a pas de raison. Et là, j'ai pas tilté ni rien. Je sais même pas d'où ma blague est sortie. Et je me suis dit, oh, bah, elle est pas très drôle, cette nana. C'est bon, quoi. Et donc, on est sortis de la maternité. Et par contre, en fait, elle essayait de regarder les yeux. Et comme il fermait beaucoup les yeux, déjà il dormait beaucoup à la maternité, puis il voulait pas ouvrir les yeux, elle disait bon ben on va le laisser tranquille, mais voilà, avec votre pédiatre ce serait bien qu'elle regarde les yeux si tout va bien. Donc bon, moi j'ai noté le truc, mais voilà, on est sorti de la maternité tout ça. Et puis en fait on a fait le premier rendez-vous avec la pédiatre, donc je crois que c'est un mois. Et puis elle nous a rien dit de spécial, elle a rien. Enfin voilà, le rendez-vous normal. Et puis aux 2 mois, en fait, moi je m'étais rendu compte qu'il avait les yeux qui balayaient. Parce qu'en fait, j'avais pris le métro pour voir une copine. Et en fait, j'avais vu un autre bébé qui m'avait regardé, qui était dans sa poussette, un tout petit. Et en fait, il me regardait fixement. Et comme moi, je connaissais pas de bébé, je regardais jamais les bébés en fait avant. Mmh. Et que mon fils, ça faisait des semaines que je le voyais avec les yeux qui balayaient, je me disais, bah, ça se trouve, c'est un truc de bébé où ça se muscle et puis à un moment, ça va se fixer. Et du coup, quand j'ai vu cet autre bébé à peu près du même âge qui avait les yeux tout droits, je me suis dit, il y a un truc chelou là. Ouais. Et du coup, l'autre rendez-vous aux 2 mois avec la pédiatre, je dis, par contre, les yeux, j'ai vu un autre bébé, ça faisait pas ça. Est-ce que ça doit se muscler? Enfin, ça vient de quoi? À quel moment il va fixer ses yeux? Et elle a regardé, elle nous a dit, oh, c'est vrai qu'il a les cils très blancs. Bon, je vais vous envoyer chez une collègue ophtalmo qui va regarder, qui va faire une consultation. Donc elle écrit une lettre pour sa consoeur et elle la met dans une enveloppe qui n'est pas fermée et elle met ça dans le carnet de santé. Donc nous, on repart. Je me souviens, je rentre à la maison et sur Google, je cherche maladie cils blancs et j'ai rien trouvé. Et j'étais là, c'est bizarre quand même qu'elle nous ait dit ça. Et en fait, ni le papa ni moi, on a regardé la lettre en fait. Je me suis dit, ok, elle a écrit un truc pour l'autre médecin, et j'ai même pas eu la curiosité de lire ce qu'elle avait mis. Donc c'est elle qui prenait le rendez-vous. Donc le soir, elle nous rappelle en disant, je vous ai obtenu un rendez-vous, telle date et tout. C'était en journée, donc comme le papa bossait, c'est moi qui suis allée, où j'ai dit, je t'appellerai après, s'il y a quoi que ce soit, tout ça. Donc je me pointe comme une fleur avec mon bébé.
T'étais pas du tout inquiète du coup?
J'étais pas du tout inquiète parce que je me disais, ça se trouve, peut-être qu'il y a un petit retard, un truc à muscler, enfin voilà. Et sauf qu'en fait, l'ophtalmo qui m'a reçue, elle a pensé que j'avais lu ou que la pédiatre nous avait préparé, et voilà. Donc en fait, elle sort le papier, elle le lit, elle fait, mettez votre bébé sur vous, elle sort sa lampe, elle regarde et tous les yeux, et puis elle me fait, oui, c'est ça, votre bébé, il est albinos. Et du coup, j'ai eu le plafond s'est écrasé sur moi, quoi. Et là, je me suis mise à pleurer. Et je fais, quoi, mais... Enfin, genre, de quoi me parle, elle? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça sort d'où? Et là, elle me fait, c'est un handicap. En fait, comme il n'y a pas de mélanine dans le corps, c'est pour ça qu'ils ont les cheveux et les poils blancs, et la peau très blanche. Par contre, en fait, au fond des yeux, on a des petits cônes qui sont en mélanine, qui permettent la vision de loin. Et si ces cônes ne sont pas là, on est malvoyant. Et du coup, elle m'explique ça, cash. Et alors, je me remets à chialer et tout. J'avais mon bébé sur moi. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe encore là? Je comprends pas. C'est quoi cette histoire? Ça sort d'où? Et en plus, elle me dit, là, il faut que je lui mette des gouttes pour faire d'autres examens. Donc, vous allez attendre en salle d'attente. Et puis, je vous reprends d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Donc je ressors en larmes avec mon bébé dans la salle d'attente blindée et j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer et j'avais mon bébé et j'étais sur mon téléphone et je cherchais albino, c'est là que des trucs horribles sur Google, des trucs de massacre, de sorcellerie et tout, enfin que tous les gros clichés qu'il y avait dessus. Et j'étais en panique totale, j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer, j'envoie un texto au papa en disant il est albinos, viens... elle doit le revoir, elle doit refaire des examens et tout, viens. Et puis, pareil, il me répond, quoi? Mais je comprends rien, c'est quoi ça et tout? J'arrive. Donc, il venait en scooter, donc il devait mettre un certain temps à venir. Donc, je l'attendais dans la salle d'attente. Et puis, je me disais, ce serait bien qu'il arrive pour assister à la suite. Et après, il fallait que je donne à manger à mon bébé dans la salle d'attente, parce qu'il avait faim. Donc, j'ai fait le biberon. Et puis, tout le monde me regardait parce que j'arrêtais pas de pleurer, en fait. Et je voyais bien que les gens, ça les démangeait de savoir. Ouais. Et il y a même un papa qui commençait à me poser des questions. Il y a sa petite fille qui était là. Il me disait, il a quel âge et tout. Puis, je chantais, tu vois, qu'il attendait que je lui dise quelque chose, quoi. Et moi, je disais rien. J'étais là, mais dégagez, j'ai envie d'être toute seule avec mon bébé, là. Je veux pas vous parler. Je veux même pas qu'on me regarde dans cette situation. Enfin, c'était horrible. Ça m'a semblé interminable. Elle me fait re-rentrer dans la salle d'attente après avoir pris 2 personnes... Et le papa était toujours pas là, donc j'ai envoyé un message, je suis dans le cabinet, si t'arrives, rentre direct et tout. Et puis donc là, elle refait des examens, donc elle me réexplique que c'est un handicap, que de toute façon, là, il est trop petit, mais à 6 mois, il faudra qu'il ait des lunettes. Parce que là, de toute façon, il fera que les enlever, donc ça sert à rien avant. Et qu'en gros, là, il n'y a rien à faire. Elle m'a dit, vous revoyez votre pédiatre pour toute la partie handicap, et puis on se revoit quand il aura 6 mois pour les lunettes, quoi. Et genre, au revoir, merci. Donc, je suis ressortie, donc je me suis remise à pleurer. Je suis ressortie avec le bébé dans les bras, la poussette et tout, en me disant, mais qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, le gros choc.
En plus, tu sais même pas ce que ça engendre comme handicap.
Je sais pas ce que j'engendre. Et puis, quand elle m'a dit malvoyant, moi, j'ai pensé quasiment aveugle. Et je me suis dit... déjà, mon cerveau, je pense qu'il a fait un blackout. Il y avait trop d'infos, trop de trucs, trop de projections, Et en plus, j'imaginais que les pires trucs. En plus, avec tout ce que j'avais vu sur Google, ça rajoutait une couche. Et parce que pour moi, les albinos, ils avaient les yeux rouges. Enfin, c'est tous les clichés qu'on a de la pop culture et tout ça. Et en fait, il a les yeux bleus. Hein, ils ont tous les yeux bleus. Et du coup, je suis sortie. Et donc, son père est arrivé en scooter, genre 10 minutes après. Et il me fait, bon, ben, on va aller s'asseoir au café à côté, là. Donc, je vais garer le scooter. On se rejoint là-bas, tout ça. Donc, on s'assoit. Je raconte tout le truc. Et pareil, genre, il est tombé des nues. Et j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça se trouve, je vais devoir arrêter de travailler. Enfin, j'étais en train de me dire, ça y est, ma vie, là, c'est fini, quoi. Ça va tout remettre en question. Je vais être... Il va rien pouvoir faire dans la vie. Moi aussi, je vais être coincée, du coup, avec lui. Enfin, que les sales pensées super négatives. Et puis on s'est dit, et en plus le week-end d'après on devait avoir un pique-nique avec des amis pour un anniversaire d'un des copains où c'est la première fois qu'il devait voir notre bébé, et du coup on s'est mis d'accord qu'on disait rien à personne. En fait, le soir on allait prévenir nos parents et puis nos frères, parce que lui il a un frère, moi j'en ai deux, et qu'on disait rien aux copains, aux collègues, on disait rien à personne. Et enfin, je pense qu'on digère aussi l'info.
Bien sûr, ouais.
Et puis en plus, à chaque fois que les gens voyaient notre bébé, tout le monde était là, oh, qu'est-ce qu'il est beau, ce petit blond là, on dirait un petit ange, machin. Enfin, tout le monde s'arrêtait sur lui parce qu'il était différent, mais pour nous, dans le bon sens, parce que c'est vrai que c'était très beau et c'était rare, quoi. On voyait pas des bébés comme ça. Et après, du coup, chaque fois, je me disais, les gens, ils regardent parce qu'ils le trouvent bizarre. Une fois que je savais, chaque fois que quelqu'un s'arrêtait sur lui pour me faire des compliments, chaque fois, je me disais, ils le trouvent que c'est bizarre, qu'il n'est pas normal.
Ils ont changé ta perspective.
Ouais, carrément, à l'opposé total. Et du coup, donc on a fait le mail à la famille. Donc tout le monde, pareil, était surpris parce qu'on ne connaissait pas d'antécédents familiaux ou quoi. Donc ça sortait de nulle part. Et les amis, du coup, on n'a rien dit, mais c'était compliqué parce qu'il n'y a eu que ça tout l'après-midi, quoi, toutes les remarques. En plus, comme on savait déjà qu'il fallait faire attention au soleil, donc je lui avais acheté des lunettes de soleil, en plus hyper opaques, parce que pour eux, il faut des 4, donc c'est très noir. Donc c'était un tout petit bébé, tout blanc, tout blond, avec ses grosses lunettes de soleil bien noires, là, le bob. Et puis j'avais acheté un abri anti-UV exprès pour le parc, pour qu'il soit protégé, enfin bref. Et malgré ça, on disait rien, donc c'était assez surréaliste cet après-midi au parc, là. Et puis après, moi j'ai commencé à chercher plein d'infos sur internet là-dessus, me renseigner. J'ai contacté donc une association qui s'appelle Gène Espoir, qui est sur l'albinisme en France, enfin l'association française sur l'albinisme. Et puis du coup, il y avait une partie forum, donc en fait j'ai envoyé un mail totalement paniqué, genre je viens d'apprendre ça, je sais pas quoi faire. En plus, il rentre à la crèche bientôt, ça se trouve. Ils vont pas l'aimer. Enfin, le message, mais n'importe quoi. Quand je l'ai relu après, je l'avoue, j'étais allée loin là quand même. Et du coup, je pense que toutes les mamans du forum, elles ont senti que j'étais partie en live. Et j'ai reçu plein de messages hyper gentils, genre t'inquiète pas, même des photos de leurs enfants et tout. Mmh. Genre, quand il était bébé, il était comme ça, maintenant il a 8 ans, il ressemble à ça. T'inquiète, l'école, ça roule. Enfin. Et du coup, ça m'a fait vachement de bien. Et naturellement, en fait, il y en a même plein qui m'ont dit, si tu veux, on se rencontre. Je viens avec mes enfants, je viens avec mon fils. La première que j'ai vue, son fils, il avait 21 ans. Il faisait ses études aux États-Unis. Enfin, il avait fait Sciences Po et il partait aux États-Unis. C'était un gros beau gosse et tout, albinos, mais machin. Et en fait, je l'ai vu, je me suis dit, ah, ok, bon, c'est bon, il y a un avenir.
Parce que là, le rendez-vous avec
l'ophtalmo.
Après le rendez-vous avec l'ophtalmo, du coup, tu devais avoir un autre rendez-vous avec un spécialiste. Il y avait combien de temps entre les deux ?
Même pas de spécialiste. En fait, on a revu notre pédiatre et elle nous a dit de faire un dossier MDPH pour déclarer le handicap. Parce que même si tout bébé, les premières années, ça n'allait pas nous servir. Ensuite, donc il y a une allocation qui est autour de 100 € pour du matériel, nous, les crèmes solaires, etc. Mais c'est important pour les débuts à l'école, parce que quand il y a un accompagnement, ou s'il y a besoin d'un accompagnement, ou par exemple d'acheter un bureau pupitre spécialisé qui se remonte pour être plus près des yeux, ou plus tard au collège, un ordinateur, ou des choses comme ça, ou des loupes, enfin, tout ce qui est matériel. Ensuite, il faut que le dossier soit déjà fait, parce qu'il y a ça prend beaucoup de temps. Donc elle nous a dit, faites-le tout de suite, comme ça au moins ce sera fait pour quand tu auras, s'il y a des besoins à un moment, quoi.
Parce que là, du coup, elle vous explique que le handicap porte essentiellement sur la vue.
Bah, même pas, elle n'avait pas l'air non plus de beaucoup connaître.
Ouais.
Donc en fait, toutes les infos, c'est moi qui suis allée à la pêche pour les avoir. Et je les ai eues donc, par les autres parents de l'association Jeune Espoir. Et en lisant des trucs, il y a pas mal d'infos aussi en anglais sur Internet. Parce qu'aux États-Unis, bah, y en a plus, avec aussi la population qui est beaucoup plus grande qu'en France. Et puis il y a une grosse association aussi américaine qui s'appelle NOAA sur l'albinisme, où ils font beaucoup de communication, il y a des livres en anglais et tout.
D'accord.
Moi j'ai fait genre mon étude de marché de l'albinisme, j'ai lu tout ce que j'ai trouvé, cherché toutes les infos, tout ça. J'ai acheté plein de trucs pour lui stimuler la vue, donc des tours de lit en noir et blanc hyper contrastés, des livres avec des formes contrastées. Des trucs très très colorés, un mobile à mettre au-dessus de son lit avec pareil des formes géométriques noir et blanc, rouge et blanc. Enfin, je me suis dit ok, c'est parti, c'est mon nouvel objectif maintenant, c'est nouveau chantier. Je vais tout faire pour que il soit au top de tout ce qui est possible de faire et que tout ce que je peux faire pour l'aider, en gros, je vais le faire quoi.
Et les personnes que tu as rencontrées, de toute façon, t'ont rassurée.
Et du coup, ouais, c'était bien de voir les enfants parce que donc j'ai vu ce grand-là qui était en train de faire ses études. Où en fait, je sais pas ce que je m'étais imaginé, mais quand j'ai vu un jeune mec, beau gosse, sympa, qui racontait tout ce qu'il faisait, qui partait en plus faire ses études aux États-Unis et tout... Je me suis dit, ah bah d'accord, en fait, ce sera la vie normale, quoi.
Tu lui as demandé si lui, il avait eu des problèmes de vue particuliers.
Ben, en fait, donc, il m'a expliqué un peu comment s'était passé sa scolarité, tout ça. Et ce qui est rigolo, c'est que lui, il avait sa vision des choses. Et sa mère, à chaque fois, elle relativisait en disant, oui, mais tu te rends pas compte, quand toi, ça se passait comme ça, nous, il fallait qu'on gère chaque année, qu'on réexplique à tous les instits, que machin, toutes les démarches et tout. Donc, j'avais les deux points de vue. Et puis, il m'expliquait, par exemple, comme ils sont photophobes, donc dès qu'il y a un peu trop de lumière, en fait, ça les éblouit. Ça fait comme un projecteur dans les yeux non-stop pour nous. Et du coup, bah, naturellement, quand on est rentré dans le resto, lui s'est mis dos à la baie vitrée. Et il dit, maintenant, je le fais automatiquement, mais c'est des choses à faire peut-être quand lui, il est petit. Faire attention quand il y a les fenêtres, tout ça, trop de lumière, que vous fassiez attention à ça. Et puis, même, je me souviens, j'avais posé une question complètement débile. Sa mère était allée aux toilettes. Et du coup, je lui avais dit, alors, par contre, les filles, comment ça... Enfin, est-ce que ça allait? La mère super inquiète. Et en fait, en posant la question, je me voyais poser la question. J'étais là, la pauvre fille, il doit se dire, c'est quoi cette... Et après, j'étais dit, ça se trouve, en plus, il aime même pas les filles. Enfin, mon cerveau était en train de faire le truc en parallèle. Et il m'a dit, oh, normal, quoi, pas de souci. Et il m'a raconté, quand il était au collège, on lui avait raconté qu'un autre enfant, ou sa mère connaissait, je sais pas quoi, un autre enfant albinos, qui était un collégien et qui était un bourreau des cœurs. Et que lui, en fait, en sachant ça, qu'il y avait un enfant albinos qui pouvait être un bourreau des cœurs, il s'était dit, bon bah, c'est bon, quoi. En gros, oui, on peut m'aimer, quoi. Parce que c'est bête, mais je m'étais dit ça aussi. Je m'étais là, est-ce qu'il va trouver... quelqu'un pour l'aimer, faire des enfants, enfin tous ces trucs-là. Et voilà, rencontrer d'autres familles et d'autres enfants, ça m'avait aussi... Ben, en fait, ça avait concrétisé les choses. Parce que moi, j'avais mon bébé, personne ne savait me dire ce qu'il voyait, qu'est-ce qu'il allait se passer. Et là, de voir les enfants à différents âges et les parents, et qui m'expliquaient comment ça s'était passé pour eux et tout, ben, du coup, voilà, ça ancre dans le réel et on peut se projeter, en fait, dans l'avenir, juste, et moins s'inquiéter.
Parce qu'il n'y avait pas d'autre handicap que la photosensibilité
Alors, donc, du coup, le handicap visuel, donc il y a la crème solaire. Comme ils n'ont pas de mélanine, en fait, il n'y a pas de filtre sur la peau. Puisque nous, quand le soleil tape, on bronze. Et c'est ça qui crée la protection de la peau. Eux, ils n'ont pas ça. Donc, ça veut dire que les UV passent directement. Et plus tard, ça peut causer des cancers de la peau. Même tout petit, en fait, dès que les UV sont à 3-4, on lui met de la crème... Donc 6 mois à peu près par an. 6 mois par an, on surveille l'indice UV sur Internet tous les matins. Et on voit si on lui met de la crème. Il a des lunettes de soleil et une casquette qui protège la nuque. Donc on a cousu. Alors à chaque fois, on prend une casquette cool. Jurassic Park, Pokémon, machin. Et on coud un bout de tissu un peu vilain, mais bon, qui protège la nuque. Et du coup, c'est le seul à l'école, donc maternelle et maintenant primaire, qui a droit d'avoir des lunettes de soleil et une casquette printemps, été... Et début d'automne, quoi.
Ouais.
Donc il y a ça. Et par contre, la vision, donc, il a une basse vision. Donc c'est ce qu'on appelle malvoyant. Donc là, il a un peu moins de 2 dixièmes de vision avec lunettes.
D'accord.
Donc quelqu'un qui est, en comparaison, même si c'est pas exactement ça, quelqu'un qui est extrêmement myope, mon fils, il voit ça, mais avec ses lunettes. Mmh. Et du coup, dans la vie de tous les jours, il se rapproche beaucoup des choses. Effectivement, les visions de loin, parfois. Par exemple, une fois dans la rue, il a cru que c'était mon frère qui venait vers nous, et en fait c'était un inconnu, mais qui avait un peu la même dégaine que mon frère, un peu la même silhouette, et du coup il pensait que c'était lui, parce que on se dit, et même pour les copains à l'école et tout, dans la cour, il repère avec les couleurs des blousons, enfin...
Ah oui, d'accord.
Donc il a plein de stratégies qui met en place tout seul. Pareil, les lieux, en fait, première fois, on regarde un peu les lieux, s'il y a des marches, des trucs un peu risqués, parce que bon, il se cogne quand même, enfin, en tout cas quand il ne connaît pas l'endroit, il peut tomber, se cogner et tout. Mmh. Et une fois qu'il a une excellente mémoire, donc une fois qu'il a scanné un lieu, l'école, le parc, tout ça, après ça roule, il court, il fait. Alors moi, à chaque fois, je dis ah, cours pas, encore pire que les autres mamans.
Ouais.
Et en fait, c'est. Ensuite, ça roule quoi, donc il s'adapte hyper vite et il développe des stratégies hyper vite. Mais c'est vrai que par exemple, moi j'adore lire, j'adore les livres et tout, et je m'étais dit, bon bah c'est dommage, il sera jamais un gros lecteur. Et en fait, là il a 7 ans, il est en CE1, et c'est un énorme lecteur.
Ouais.
Il est tombé dedans, et en fait il adore lire, donc il lit prêt. Il y a certains livres qui sont adaptés avec des typos plus grosses, parce qu'il y a un organisme qui l'accompagne qui s'appelle le SIAM, où du coup ils fournissent les manuels scolaires un peu agrandis, des trucs comme ça. Mais il est dans une classe normale, il n'y a pas quelqu'un dans la classe qui l'aide ou quoi, il écrit tout seul, il suit tout seul, mais il est devant le tableau, premier rang, et depuis cette année il a un bureau pupitre donc spécial qui lui permet de remonter pour la lecture, pour qu'il n'ait pas à toujours se pencher, pour pas qu'il ait mal au cou ou au dos.
Ah oui.
Parce que sinon il est obligé de carrément être allongé sur son bureau pour bien voir, et donc ça le fatigue, et en fin de journée il est plus fatigué que les autres enfants, donc pour qu'il ait moins de fatigue et qu'il se concentre sur les apprentissages. Y a du matériel qui est adapté, donc ça c'est hyper bien. L'école a commandé le bureau donc sur les conseils du SIAM, il l'avait à la rentrée, et trop bien. Donc, et c'est un énorme lecteur. Et par exemple, il voulait lire Harry Potter, et du coup en fait j'avais mon Kindle qui traînait dans un tiroir que j'utilisais plus, j'étais chargée Harry Potter, en plus on peut mettre la typo en gros, et du coup on l'a mis en vraiment gros pour que ce soit confortable, et puis il lit ça sur le Kindle, donc on s'adapte.
Et ça pourra s'améliorer, sa vue ou...
Alors non, du coup... Alors, ça pourra pas s'améliorer, mais ça va pas dégénérer. Donc, toutes les stratégies qu'il développe maintenant et tout l'accompagnement qui se met en place pour qu'il s'adapte à ça, ce sera comme ça toute la vie après. Donc,
d'accord.
C'est bien parce que, justement, par exemple, le SIAM qui l'accompagne, ils apprennent aux enfants l'autonomie. Donc, ils vont lui apprendre comment traverser tout seul. Parce que, par exemple, il y a un autre témoignage d'une femme albinos qui avait encore une moins bonne vue que mon fils. Et elle expliquait que, par exemple, une fois, elle était en passage piéton, elle a vu un truc vert clignoter en face, elle a cru que c'était le bonhomme vert, elle a traversé, et c'était une pharmacie qui était en face. Et le bonhomme était rouge. Et du coup, elle donne ce genre d'exemple où, par exemple, le SIAM, ils apprennent aux enfants comment bien traverser sans risque, comment faire... Même ensuite, les ados, ils leur apprennent comment cuisiner sans risque, enfin, tous les trucs... Pour qu'ils soient complètement autonomes, ils les accompagnent, je crois, jusqu'à 18 ans, mais en gros, vers milieu d'adolescence, ça roule, quoi. Donc voilà, tout ça nous a rassurés aussi sur le fait que, ben oui, le cerveau, tout roule. Ça, il y aura des adaptations, mais on voit déjà qu'ils s'adaptent très bien. Donc, plus ça avance, plus on est rassurés. Mais tout bébé, c'était chaud, parce que 2 mois et demi, on se disait, mais qu'est-ce qu'il voit ? Et même ce qu'il voit... il a fallu attendre même plus tard que quand il savait parler, parce que quand il savait parler, c'est dur en fait de leur faire dire qu'est-ce que tu vois, est-ce que tu vois un peu flou,
enfin, ah oui, bien sûr.
Et là, ce que tu vois, enfin, c'était compliqué. Que même encore maintenant, chaque fois je lui dis là ça va, et là la lumière, enfin, ça devient en fait des habitudes du quotidien, quoi.
Ouais.
Mais souvent je devance trop de choses et chaque fois il me fait « Oh, c'est bon, ça va, t'inquiète. »
Je gère.
Oui, c'est ça. Je gère. Non, mais c'est bon, là. Et chaque fois, je me dis « T'es sûr, c'est un peu petit. Non, mais c'est bon, j'arrive à lire. Regarde. » Alors, il me lit le truc. Oui, ok, bon, ça va.
Et au niveau de l'école, avec les copains, etc., ça se passe bien ?
Ouais, en fait, alors il est très... Donc moi, je suis assez réservée et et pas très sociable, assez introverti et tout. Et lui, c'est l'opposé. Il est, depuis tout bébé, il était hyper bavard. Mmh. Et en fait, j'en parle aussi dans la bande dessinée quand je raconte ça, c'est qu'au début, d'autres parents m'avaient dit c'est bien de verbaliser tout ce que tu fais avec lui pour que justement il puisse un peu imaginer le monde et comprendre ce qui se passe s'il voit pas bien de loin. Donc c'est genre, bah là on prend l'ascenseur, on va faire tel truc, tiens dans la rue on vient de croiser un petit chien, parce que du coup il y a tel bruit mais ça correspond à un chien, enfin... Et du coup, c'est une habitude que j'ai prise tout bébé quand on était dans le porte-bébé. Et je faisais ça tout le temps, même à la maison. Je disais, bah, je fais ça, on va faire ça, là je t'emmène dans la salle de bain, machin. Mm-hmm. C'était devenu une espèce de réflexe, j'y pensais même plus. Ça fait que je pense que je l'ai bombardé de paroles tout bébé. Et en plus, je lui parlais pas comme un bébé, quoi. Je faisais pas genre, oui, nini. Mm-hmm. Je parlais, bon voilà, il se passe ça, on fait ça, on va à tel endroit, là il y a ça. Et du coup, il a parlé super tôt. Il a fait des phrases très très tôt. Avec des phrases bien élaborées et tout. Et il a été super bavard, très très tôt. Et ça s'est jamais arrêté. Donc du coup, il parle tout le temps, il raconte plein de trucs, il est hyper sociable. On peut pas prendre le métro sans qu'il se mette à tchatcher la personne en face ou à côté et qu'il raconte toute notre vie, bref. Et du coup, à l'école, bah, je pense que ça se fait naturellement aussi. La rentrée en CP, il a changé de quartier, donc nouvelle école, nouveaux copains et tout. Et au début, il était un peu anxieux. Et puis, en fait, bah, il est tellement bavard et rigolo. Et il raconte plein de trucs, en fait. Et au niveau des moqueries, en fait, il y a eu un enfant qui l'appelait tête de chou blanc. Et donc, du coup, on en a parlé. On a désamorcé le truc. Et puis, moi, je travaille vachement sur son estime, quoi. Mmh. Chaque fois, je lui fais relativiser des choses. Je lui montre tous ses points forts. Enfin, j'essaye, en tout cas. Et du coup, je lui avais dit, bah, c'est pas grave si cet enfant t'a dit ça. Enfin, en tout cas, s'il le dit trop souvent, tu le dis à un adulte, tu le laisses pas continuer, quoi. Mais oui. Voilà, c'est bête d'avoir dit ça. Et puis, voilà. Donc après, bon, il y a encore l'école primaire. Je redoute un peu le collège. Où le collège, il suffit d'être mal coiffé ou de pas avoir les bonnes baskets ou je sais pas quoi et on prend cher. Donc là, lui, il va arriver avec des cheveux blonds, quasi blancs. Enfin, il va clignoter dans la cour, quoi. Venez m'embêter. Donc, mais j'essaie de me dire, bon, j'arrête de trop m'inquiéter puisque chaque fois, en fait, je pars très très loin. Et par rapport à ce qui se passe réellement et comment lui, il réagit, il anticipe. Et puis même là-dessus, il va être accompagné aussi, il y a une psychologue.
D'accord.
Qui aide aussi les enfants à travailler sur l'estime de soi, comment réagir quand il se passe ça, comment parler eux-mêmes de leur handicap et tout. Mais là, par exemple, on lui a dit assez tôt qu'il était albinos, que c'était joli, que c'était très rare et tout. Et du coup, il le dit avec vachement de facilité, même dans la rue, si quelqu'un lui fait « Oh là là, mais qu'est-ce que t'es blond, toi ?» Il dit direct « Ah bah c'est parce que je suis albinos, machin, il commence à parler. »
Oui, que ce soit pas tabou.
C'est ça, c'est pas tabou, c'est pas une honte, c'est pas associé à du négatif. Et même le fait qu'il voit pas bien, tout ça. Donc, après, parfois, il y a des choses qui l'énervent parce qu'il sait que ses yeux, quand il est fatigué, il balaie. Donc, en fait, quand il est concentré, il fixe ses yeux. Par contre, dès qu'il a un petit coup de fatigue, quand nous, on regarde un peu dans le vague, lui, en fait, ses yeux se mettent à balayer. Le muscle se relâche. Et du coup, il y a déjà des enfants qui lui ont dit « Pourquoi tes yeux, ils font ça ?» Et du coup, ça l'embête un peu.
Ah oui.
Donc, mais il apprend à en parler et à expliquer et de plus en plus conscient de tout ça aussi. Donc, mais ça va, l'école, ça se passe bien.
Et la société en général
Et la société, bah, du coup, l'albinisme, en fait, personne ne connaît. Déjà, c'est extrêmement rare.
Oui, il y a combien de cas ?
Il y a à peu près... alors, je crois que c'est autour de 60 naissances par an en France. Enfin, c'est très, très peu. En plus, comme c'est plus visible sur des personnes, par exemple, qui ont des ethnies plus de type de pays d'Afrique, parce qu'il y a des albinos en Asie, en Afrique, il y en a partout. Mais c'est vrai que sur des personnes blanches, ça fait un peu plus... en fait, on dirait un petit Suédois. Mmh. Il est donc pâle, les cheveux très très blonds, les yeux bleus. Et si on le dit pas aux gens, ils vont pas dire « Ah, il est albinos le petit ». Ils vont juste se dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il est blond ouais. Est-ce que ça vient du papa ?» Machin. Enfin, à chaque fois, c'est des questions, parce que moi, je suis pas blonde du tout.
C'est bien brune.
Mais personne se dit « c'est bizarre ». Après, quand il sera adulte, parce qu'il y en a plein des enfants blonds, enfin, il y en a plein, il y en a, mais quand il sera adulte, qu'il aura une barbe qui sera très très claire, etc., je pense que ça fera déjà un peu différent. Et en fait, donc l'albinisme, un, c'est méconnu, deux, sur un enfant qui est blanc, c'est moins reconnaissable tout de suite que, par exemple, un enfant dont les parents sont noirs. Et y a tout un imaginaire hyper négatif et chelou associé à ça. Alors déjà, donc, y a dans tous les films, ils ont les yeux rouges. Alors que dans la vraie vie, c'est les lapins albinos qui ont les yeux rouges, ou les rats, mais les humains, jamais. Ils ont les yeux bleu clair ou un petit peu mauve, parce que tellement transparent qu'on voit un peu le fond de l'œil, donc ça peut faire un peu violet, c'est joli d'ailleurs. Mais jamais rouge. Mais dans les films d'horreur, les trucs comme ça, où souvent les méchants, enfin les albinos, c'est des méchants. Et puis il y a des trucs vraiment... Il y a des trucs débiles au cinéma. Par exemple, le truc qui m'a le plus énervé, c'est le film Da Vinci Code, où le méchant est albinos, c'est un moine albinos, et il poursuit les gentils avec un flingue, alors qu'il est malvoyant. Je ne vois pas comment il peut viser avec son flingue sur les gentils en voyant à un mètre de distance. Hein. Bonjour les gars, vous avez bien fait votre boulot de scénariste. Mais ce qui m'embête un peu plus, c'est tout ce qui est massacre d'albinos et tout ça dans certains pays. Parce que ça, j'en ai pas encore parlé à mon fils. Et parfois, il y a des trucs aux infos. Alors déjà, sur Internet, parfois, il y a des choses qui passent quand même sous mes yeux et je coupe tout de suite parce que je peux plus lire ces trucs-là. Souvent, en plus, comme c'est plus facile de choper des enfants, c'est des enfants qui sont enlevés ou démembrés ou décapités. Enfin, il y a des histoires, mais abominables. Et en plus, souvent, les gens qui font ça, c'est aussi des gens qui sont censés être cultivés, éduqués et tout, puisqu'il y a des histoires où c'est des instits qui ont enlevé des gamins, enfin bref. Avec tous les trucs de sorcellerie. Et ça, du coup, j'ai l'impression que ça évolue pas très vite, tous ces trucs-là. Et au moment où on va devoir avoir cette discussion, où je vais devoir lui expliquer que oui, il y a des gens qui massacrent
des gens comme lui,
c'est ça, qu'il y a des enfants comme lui à qui on fait ça, pour des raisons magiques, débiles, de croyances et tout. Bon. À un moment, de toute façon, il vaut mieux que ce soit moi qui lui en parle plutôt qu'il tombe sur un truc. Voilà, mais ça, j'ai pas hâte.
Et lui rencontre d'autres enfants albinos ?
Non, pas spécialement. En fait, il y a des... Donc, ils font des rencontres à l'association une fois par an où il y a les adultes, les enfants et tout. Je l'ai fait une fois où il était tout bébé. On était allé avec ma mère, puis il y avait des conférences sur de dermatos. Donc, c'est intéressant aussi les avancées scientifiques là-dessus, sur la génétique et tout. Parce qu'en fait, c'est génétique. Et normalement, s'il y en a un, c'est que dans la famille, il y en a un.
C'est ce que j'allais
deux,
te
trois,
demander.
Deux, trois, quatre générations
si...
au-dessus.
Ouais, si
alors,
su,
du côté
coup.
De son père, on ne sait pas. Par contre, dans ma famille, c'est ressorti, une fois qu'on a su pour mon fils, que le grand-père de mon grand-père était albinos. Et personne n'en avait jamais parlé. Et il vivait un peu reclus et tout ça. Mais c'était pas un non-sujet, quoi. Et l'info n'était jamais arrivée. Même jusqu'à mon père, quoi. Donc,
ah oui, d'accord.
Et donc, voilà. Mais après, il y a des familles qu'on a rencontrées où le grand-père est albinos et au-dessus aussi. Et puis, il y a un oncle. Et du coup, eux-mêmes, avant la naissance, ils s'étaient préparés à ce qu'il y ait une chance. Parce que, selon les gènes, il y a une chance sur deux ou une chance sur quatre que l'enfant le soit. Donc, eux, voilà, ils savaient qu'il y avait un risque. Que nous, en fait, on s'est arrivé de nulle part, quoi.
Comment t'as pris ça, toi, de savoir que c'était dans ta famille
J'ai prévenu mes frères. Genre, quand vous aurez des meufs, si vous voulez faire des bébés, il faudra leur dire, hein, parce que il y a quand même un petit risque. Mais voilà, après, de toute façon, il y a dans toutes les familles, il y a des particularités génétiques ou médicales ou des choses. Là, c'en est une qui est plus visible que d'autres et un peu plus embêtante que d'autres, mais. En fait, on relativise parce que oui, il voit pas bien, mais il a toute sa tête, il est débrouillard. Et du coup, je m'inquiète moins pour lui que si, par exemple, c'était quelque chose qui serait plus compliqué socialement ou au niveau autonomie, comme un autisme sévère ou une déficience mentale ou des choses comme ça. Où là, finalement, on se dit, en gros, on a eu de la chance. C'est horrible de dire ça, parce que de toute façon, tous les handicaps sont différents, mais quand je le vois se débrouiller et tout, je suis toujours inquiète, parce que de toute façon, toutes les mères sont inquiètes, mais je suis moins inquiète pour lui. Je sais que il va gérer, quoi.
Ouais. T'as fait beaucoup de chemin depuis ce premier rendez-vous.
C'est ça, quand il avait 2 mois et demi, qui était tout petit avec l'énorme diagnostic au-dessus là qui flottait, genre qu'est-ce qu'on va faire. Mais c'est vrai que du coup quand j'ai repris pour refaire la boucle, quand j'ai repris le travail, donc on avait déjà eu le diagnostic, et c'est vrai qu'au début j'en parlais à personne. Donc en plus tout le monde m'a posé des questions toute la journée sur lui quand j'ai repris, et à chaque fois je disais rien, je disais ah bah tout va bien, oui il est mignon, oui il fait ses nuits et tout, et puis je rentrais pas dans les détails parce qu'en plus au début chaque fois que j'en parlais je me mettais à pleurer direct. Et du coup je m'étais dit là s'il y en a un qui me déclenche là-dessus je vais partir en torrent là, ça va être compliqué. Sauf qu'en fait, il y a eu une période où il a eu plus de rendez-vous, parce que quand il a eu 6 mois, donc du coup, on n'est pas retourné chez cet ophtalmo, parce que moi, j'avais un petit trauma, zéro tact et tout, enfin voilà, c'est elle, plus jamais. Et en fait, une autre maman m'avait dit que ses enfants étaient suivis à Trousseau, il y a un service ophtalmo où ils connaissent l'albinisme, il y a plein d'enfants qui y vont et tout. Donc on est allé, et puis en fait, sur peu de temps, il y a eu beaucoup de rendez-vous médicaux, parce qu'on avait aussi une dermato, tout ça. Et où du coup chaque fois bah, je prenais des jours au travail, et du coup j'ai fini par le dire au travail, genre bon désolé je prends plein de jours parce que mon fils il y a ça et tout. Et en fait mon boulot, trop bien, ils ont organisé, je savais même pas que ça existait avant, une collecte de dons de jours de RTT. Et du coup ils ont demandé à toute la boîte, en restant anonyme, en disant voilà on a un collaborateur qui a un enfant qui a besoin de temps quoi, si vous voulez donner des jours de RTT c'est possible, on s'est renseigné avec l'avocat machin. Et du coup, il y a eu plein de jours donnés par les collègues, donc super sympa. Parce que moi, j'avais déjà plus de jours. Entre le congé maternité, les rendez-vous, les trucs, j'avais tout cramé. Et du coup, alors, au début, ça m'affolait parce que comme sur un peu de temps, il y a eu beaucoup de rendez-vous, je me suis dit, ça va être ça ma vie, en fait. Tous les mois, il va y avoir 4 rendez-vous, machin. Et en fait, c'était juste un temps, le temps de faire les lunettes, faire le premier rendez-vous, mettre en place le suivi. Et après, ça s'est calmé et maintenant, c'est une fois par an... même j'avais eu trop de jours, donc j'ai dit bah en fait
je les rends.
C'est ça, je vais pas tous les utiliser finalement, et tant mieux. Mais du coup ils ont été hyper cool, alors que je redoutais un peu ça, de commencer à en parler. Puis donc du coup j'ai commencé à en parler d'abord pour la partie administrative, les congés et tout. Après j'en ai parlé un peu à mon équipe petit à petit, puis maintenant en fait j'en parle hyper facilement à n'importe qui, enfin. Si dans la rue, il y a une énième mamie qui m'arrête et qui commence à me faire son speech et tout, j'ai pas dû lui expliquer tout le truc parce que j'ai la flemme. Mais des amis, des nouveaux collègues, même des freelances, si le sujet arrive, j'en parle hyper naturellement, j'explique ce que c'est et ça roule, quoi. Que la première année, c'était plus compliqué.
Et t'en as même fait un livre ?
Oui, donc du coup...
Comète.
C'est vrai que le... Donc j'avais monté pendant congé mat là une petite maison d'édition jeunesse. Parce que quand mon fils est né, en fait au début je voulais faire des trucs plus sur les faire-part, les premières fois des bébés, des choses plus bébés. Et on a eu le diagnostic, et là j'ai switché en me disant ok, j'ai un enfant qui est différent, qu'est-ce qu'il y a sur le marché comme livre bien sur la différence ? Et en fait, j'ai vu que c'était hyper uniforme, quoi. Ce qu'il y avait pour les livres pour enfants, c'était un peu toujours les mêmes histoires, hyper basiques, toujours des petits héros, petits garçons blancs, machin. Et enfin, il y a eu tout un tas de lectures et de trucs à un moment où je me suis dit, bon, mon axe maintenant, ça va être ça, ça va être la différence. Donc, j'ai monté cette maison d'édition, on a sorti des livres, tout ça. Puis, comme j'avais toujours mon boulot, j'ai tenu 3-4 ans, et puis après, j'ai fait là, je tiens plus, ça me va plus, donc j'ai coupé ce projet, j'ai fermé. Par contre, en fait, en recevant plein de books d'illustrateurs pour cette entreprise, ça me titillait de refaire de l'illustration, de redessiner, parce que du coup, dans la vie, je suis graphiste, enfin, je suis directrice artistique, mais c'est beaucoup sur ordi, et autant j'ai fait des études d'art, ça faisait longtemps que j'avais pas dessiné. Et du coup, plus je voyais des books d'illustrateurs, plus ça me faisait envie de m'y remettre. Et puis en me disant, bon, qu'est-ce que je peux faire comme petit dessin, je me suis dit, je vais faire des petites BD sur Insta, parce que je suivais des comptes Instagram de petits strips en 4 cases, qui a beaucoup, ça marche bien avec le format d'Instagram. Et je voyais les trucs, j'étais là, bon, ça je serais capable de le faire, donc pourquoi pas, je vais faire des trucs sur ma famille et mon fils qui est albinos, quoi, comme ça. Je parle un peu de l'albinisme, parce que la maison d'édition, je l'avais montée en me disant, je vais parler de différence. Mais en fait, on a commencé à faire des livres. Là où il y avait un réel besoin, c'était sur les couleurs de peau et tout ça. En fait, il y a un énorme manque sur le marché. Et donc, on a fait un super bouquin là-dessus qui s'appelle « Comme un million de papillons noirs » qui a une super bonne réception. qui correspond à plein d'enfants, donc c'était cool. Par contre, en fait, ça commençait à prendre une ligne éditoriale où je me sentais moins légitime et où je m'éloignais de mon fils, en fait. Mmh. En me disant, moi, mon truc, c'était à la base l'albinisme. Et, ou la différence, mais enfin voilà, je sentais que le truc partait et que j'avais besoin de me recentrer sur ce que moi je connaissais. Et du coup, j'ai commencé à faire ces petites BD en 4 cases, mais un peu à l'arrache. Et puis, je lisais de plus en plus de romans graphiques. Et pareil, à un moment, je me suis dit, en fait, ça aussi, je serais capable de le faire. Peut-être faudrait que je fasse un truc. Et puis, je me disais aussi, il y a tout le postpartum où en fait. Pareil, là, personne ne dit rien, j'ai l'impression qu'on m'a arnaqué, que personne ne m'a prévenu. Alors peut-être que si, mais je suis tombée des nues complet. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire un truc là-dessus, quoi, avec ces deux sujets. Et je me souviens, il y avait même une amie qui avait un bébé qui m'avait dit, non, tu devrais faire un truc que sur le postpartum, parce que là, il y a vraiment une grosse demande, les femmes, il faut qu'on en parle, parce qu'elle aussi, elle avait un peu morflé. Et c'était avant tous les départs du hashtag mon postpartum et tout ça. Et je lui avais dit oui, mais en fait, moi, c'est complètement lié au diagnostic, puisque 2 mois et demi, j'étais en plein dedans quand on a eu le diagnostic. Donc, je peux pas dissocier de mon histoire toutes les anecdotes, tous les trucs que je vais raconter. Je peux pas dissocier l'un et l'autre. En fait, ça s'est mêlé d'un bout à l'autre. Donc, si je raconte un truc, ce sera les deux sujets dedans. Et du coup, j'ai commencé à écrire le scénario. Quand j'écrivais le scénario, il y a eu le hashtag mon postpartum. Quand j'ai vu les photos Instagram de Ilana Wiesman avec sa couche aux fesses, là, déjà j'ai chialé. Je lui ai direct écrit en disant « Mais meuf, ça fait trop de bien de lire ça, tu te rends pas compte. En plus, je suis en train d'écrire un truc là-dessus. » Enfin, ça a résonné hyper fort en moi, quoi. Et puis, je pense en plein de femmes. Ouais. Donc, ça m'a confortée dans le truc. Bon, allez, je vais au bout, là. J'écris mon scénario. J'ai monté un dossier de bande dessinée et puis j'ai trouvé un éditeur. Et après, je me suis lancée à fond là-dedans. J'ai mis 1 an et demi à faire de la page 1 à la page 270. Et en plus, mon fils, il me voyait dessiner tout le temps, puis il voyait que je le dessinais lui. Mmh. Donc à chaque fois, il disait « Alors, ça avance ton livre sur moi ?» Il était tout fier. Bon, après, il a un peu feuilleté, mais comme il y a des pages un peu dures, je vérifiais ce qu'il regardait, ce qu'il lisait et tout. Et du coup, voilà, il était trop content de savoir que je faisais un truc sur lui, que je le dessinais lui, donc c'était rigolo. Et puis ça m'a fait vachement bien, parce que du coup, j'ai désarchivé toutes les photos depuis la naissance, il y a plein de trucs qui me sont revenus. Et pendant que j'écrivais le scénario, j'ai tout revécu, en fait, ça m'a fait une petite thérapie au passage, où j'ai revécu de A à Z, j'ai désarchivé tous les mails que j'avais reçus, du forum, des parents, enfin de notre famille, quand on a envoyé le tout premier mail après le diagnostic, enfin... Donc chaque étape, je l'ai revécue. Et puis même j'avais pris des notes de certaines de ses premières fois en me disant je lui ferai un petit album, un truc souvenir, là, comme on fait les livres de bébé. Et puis finalement, j'ai intégré ça au livre aussi, en disant allez, un chapitre des premières fois, les premiers pas, tous les trucs. Et du coup, je suis contente parce que ça fait un livre. Alors j'ai quand même changé, à part mon fils et moi, donc j'ai changé tous les prénoms quand même, et j'ai changé les physiques de toutes les personnes, son père c'est pas son père dedans, pour qu'il y ait quand même une distance, parce que comme disons que c'est à 90% autobiographique, mais pour le récit et que ça fasse une bande dessinée intéressante à lire, rythmée et tout, il y a des trucs que j'ai modifiés, que j'ai simplifiés, que j'ai réorganisés pour en faire un livre, en fait, pas juste un témoignage.
Un très beau livre, d'ailleurs, il est magnifique.
Ouais, je suis vraiment super contente du rendu. Il
est sublime.
Et du coup, aussi en me disant, quand il va le lire plus tard, ça permettra d'avoir un petit recul quand même. Mmh. Il lira des choses où c'est des anecdotes qui se sont passées. Il y a plein de trucs, même. Il y a une scène avec un punk à chien qui s'y connaît à fond, un bébé que j'avais rencontré dans le tram. Et ça s'est vraiment passé. Et pareil, je l'avais noté en me disant, mais c'est surréaliste ce truc. Et je l'ai mis dans le scénario en me disant, ça, c'était quand même dingue, je vais le mettre aussi. Donc, plein de notes que j'avais prises au fur et à mesure où il grandissait. J'ai tout désarchivé et tout remis à plat en me disant, qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je garde.
Tu lui as raconté à ton fils son histoire ?
Petit à petit je lui ai raconté, puis c'est vrai qu'il y a des scènes du livre que j'ai reprises telles quelles, parce que par exemple parfois on commence à parler de quelque chose et puis il posait des questions sur par où il était sorti. C'est ça, mais les bébés sortent par où, moi j'étais sortie par où, donc là on était sur le canapé, puis j'avais raconté qu'il était en siège, que les docteurs ils sentaient sa petite main, donc du coup qu'il m'avait coupé le ventre, et là il était là genre quoi. Donc j'y avais montré à la cicatrice en disant tu vois là c'est tout petit avant, parce que ça s'est resserré, ça s'est guéri, mais et puis bah t'étais un tout petit bébé, donc c'est voilà, c'était pas un gros trou dans le ventre, donc j'expliquais tous les trucs. Et puis même que c'était dur au début, enfin je lui avais dit quoi, que c'était dur, que ça faisait mal. Mais même avec son père, de toute façon, on s'est dit, on répond à toutes les questions, quoi qu'il pose, on va dire la vérité, avec les mots adaptés, mais on va rien cacher, rien rendre tabou, ni rien, faut que c'est ça qu'il sache tout de son histoire, et puis même pour lui, c'est sain de comprendre comment tout ça, ça s'est passé.
Bien sûr.
Donc bon, avec le recul de ses 7 ans, hein, mais... Mais en tout cas, oui, on dit tout. Donc, effectivement, de travailler sur le livre, ça m'a permis aussi d'avoir des discussions avec lui, qu'il amorçait lui-même. Donc, c'était rigolo. Ça faisait un peu une mise en abîme où j'étais en train de faire le livre. Il me racontait un truc et j'étais là, ah, ça, c'est rigolo. Bon, je vais le rajouter à la fin du livre et tout. Donc, ça va jusqu'à l'entrée en CP. Et la dernière page, c'est son entrée en CP. Et c'est vrai que même le CP, il s'est encore passé énormément de choses parce qu'il y a eu tout... l'apprentissage de l'écriture, parce qu'il a eu le déclic de la lecture en maternelle, donc ça c'est dans le livre. Mais après, apprendre à écrire quand on est malvoyant, c'est plus compliqué et plus laborieux que d'autres enfants. Expliquer à l'instit, parce que comme il se débrouille hyper bien, qu'il fait ses stratégies et tout, si on n'explique pas noir sur blanc comment il voit et qu'il voit extrêmement mal, les gens ils s'en rendent pas compte en fait. Et même ils doutent un peu, genre vous êtes sûr, parce que là ça n'a pas l'air. Bah oui, sauf qu'en fait, il fait tellement d'efforts que le soir, il est crevé ou il est agité en classe en fin de journée parce qu'il est super fatigué. Et les instits, faut leur expliquer tout ça, quoi. Donc, l'école primaire, il y avait encore plein de choses à rajouter, mais je me suis dit, bon, je vais pas non plus faire un récit de 300 pages.
Ce sera le tome 2.
Non, je pense pas qu'il y aura le tome 2. Non, là, c'est bon. Ça, c'était un gros truc. C'est fait. Maintenant, on ouvre un nouveau chapitre, mais qui sera pas édité.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Je pense que ça m'a rendue plus souciable. Parce que du coup, alors déjà, ça m'a rendue plus patiente. Parce que moi, je suis extrêmement impatiente. J'ai besoin que tout aille vite, comme je veux, quand je veux, que je m'organise comme je veux et tout. Et là, impossible. Donc, tout le planning qui change, les imprévus, un enfant, ça met du temps à s'habiller, ça met du temps à faire les choses et tout. Donc... chaque fois, c'est ça, ça m'a pris la patience. Plus sociable, parce que c'est vrai qu'avant, j'étais super sauvage. J'étais vraiment dans mon petit coin, je faisais mes trucs et tout. Et le fait que mon fils soit hyper bavard et hyper sociable avec tout le monde, et puis même, simplement, il y a les anniversaires, on doit voir d'autres parents, discuter avec d'autres gens, enfin, ça amène de nouvelles interactions sociales. Et du coup, ça me fait un peu sortir de ma grotte ou parler à des gens, alors qu'avant, j'aurais tracé ou... Donc ça c'est pas plus mal. Et puis je pense que je suis beaucoup plus sensibilisée à tout ce qui est différence, inégalité. Avant je savais que c'était là, j'étais consciente de ça, mais ça me passait un peu au-dessus de la tête, quoi. Que maintenant je suis hyper sensible à tout ça et je suis même un peu, je pense, plus révoltée qu'avant. Enfin, j'ai toujours été un peu la féministe rageuse, même au travail, je suis identifiée là-dessus. Mais maintenant, dès qu'il y a des intolérances, des trucs comme ça, je laisse rien passer, quoi. Je laisse rien passer et je suis même frustrée que la société elle avance pas assez vite sur tous ces sujets. Et je voudrais que ça aille beaucoup plus vite et que les gens fassent plus d'efforts et ce serait mieux pour tout le monde. En fait, ça changerait tellement de choses d'être plus tolérant. Et bon, mais donc voilà, ça m'a changé sur ces sujets-là.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Pour moi, être une maman parisienne, c'est être une maman speed. Parce que c'est vrai qu'il faut déposer à la crèche ou à l'école, après prendre les transports, aller au boulot. Le soir, c'est s'il y a un peu de retard de métro, il faut que je parte 10 minutes avant, machin, donc toujours speed. Et puis toujours speed et faire la queue tout le temps, quoi, parce que au parc c'est blindé, au musée c'est blindé, on va faire les courses c'est blindé, enfin Paris c'est blindé tout le temps. Donc quand on a un enfant qui est un peu qui bouge, qui s'impatiente et tout, c'est ça, c'est gérer le monde et le timing toujours serré.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Paris?
Alors, avec mon fils, j'aime bien aller au cinéma le week-end, le matin. Mmh. En fait, j'ai pas un endroit spécifique. J'aime bien l'emmener voir des expos, des trucs un peu rigolos ou ce genre de choses. Par contre, on a un petit rituel qu'on aime bien. En fait, pas loin de chez moi, il y a un resto de burger bio et il y a un petit coin avec deux fauteuils. Et en fait, une fois, on est allé manger là-bas par hasard après un rendez-vous qui a fini tard. On s'était mis dans ce petit coin et du coup, maintenant, ça devient un petit rituel où parfois, en fin de semaine, machin, on se fait « Ah, on va à ce resto et tout, on se fait notre petit resto. » Et du coup, on y va tous les deux et on prend notre truc, on se met dans notre petit coin. Et c'est notre petit coin kid-friendly qui n'était pas à la base fait pour, mais voilà.
Quels sont tes projets, rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors, donc, on est en garde partagée pour d'autres raisons qui ne sont pas liées à tout ça, mais on s'est séparés quand mon fils avait 4 ans. Donc là, les projets en famille, mon fils, j'aimerais bien l'emmener. En fait, il adorait les fusées, tout ce qui est système solaire et tout. J'en parle aussi dans la bande dessinée. Donc je voulais à la base l'emmener à la Cité de l'Espace à Toulouse, juste avant le Covid. J'avais même pris les billets et tout, et on a dû tout annuler. Et donc du coup, ça, il faudrait que je réorganise, que je trouve un moment pour l'emmener juste tous les deux. Qu'on se fasse une espèce de petit week-end juste tous les deux, à voir tous les trucs de l'espace. Et pour moi, c'est continuer à faire des livres, en plus du travail, parce que là, j'ai deux projets de livres pour enfants. Où il y en a un où je viens de finir de monter le dossier avec une autrice qui écrit aussi sur la maternité, qui s'appelle Sophie Adriansson, qui a écrit le scénario d'une BD qui s'appelle La Remplaçante, qui est aussi sur le postpartum. Oui, qui était aussi dans le tourbillon, effectivement. Oui, je l'ai écouté en plus. Donc voilà, en fait, elle m'a écrit une super histoire sur l'épilation féminine qui est géniale. Donc on a fait le dossier, là, on cherche un éditeur. Et puis il y a un livre que je voudrais faire aussi seule sur tout ce qui est PMA et l'attente du bébé, en fait, pour expliquer aux enfants. Parce que parfois, en fait, on a un enfant et en fait, pour qu'il mesure... Toute l'attente et tout ce qu'il y a eu avant même qu'il soit là, parfois, qui a pris beaucoup de temps et d'énergie et d'amour accumulé. Et du coup, je fais un album là-dessus, donc je suis en train de l'écrire. Et puis, je cherche un éditeur après, donc voilà. Donc pour moi, c'est encore des livres, mais moins gros. Parce que là, la bande dessinée, c'était un gros projet. Là, j'ai besoin de faire des projets plus courts.
Merci beaucoup, Aurélie.
Merci à toi.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.